Bien, bonsoir, messieurs, dames. Je pense que tout le monde est là, sur place. On ne va pas traîner trop. Comment ? Vous avez compté ? Il y a des groupes structurés qui s'organisent ? Bien, de toute façon, je vais faire les présentations en attendant que ceux qui sont un petit peu en retard descendent. Donc moi, je suis Joël Pacrot, donc je suis professeur à la faculté de médecine et au CHU de Poitiers. Je m'occupe du centre de sommeil que j'ai créé en 1988 avec des collègues, professeur Meurice et le professeur Naud, qui est neurologue, le professeur Meurice est pneumologue. La création de ce centre de sommeil a été liée essentiellement à la découverte d'un traitement très spécifique pour le syndrome d'apnée du sommeil. On faisait déjà des enregistrements bien avant. Donc je me suis intéressé au sommeil à partir de là et progressivement, ma spécialité, moi, c'est la neurophysiologie. Donc je fais des enregistrements d'électroencéphalogramme potentiel évoqué au CHU. Donc je suis chef de service à ce niveau-là. Et on a créé avec les médecins qui s'occupent de sommeil dans la région Poitou-Charentes un réseau qui concerne le sommeil, la prévention des troubles du sommeil, aussi un réseau pour former les médecins aux troubles du sommeil, puisqu'en fait, jusqu'à une date tout à fait très récente, il n'y avait aucune formation sur le sommeil dans le cadre des études médicales. Donc si vous avez un médecin qui n'est pas forcément très âgé, mais de plus de 40 ans, je pense qu'il n'aura aucune formation sur le sommeil en particulier. Les moins de 40 ans ont une heure de cours, et encore. Oui, sur le sommeil en général. Donc oui, il y a un déficit de formation au sommeil dans les études médicales. Donc ne soyez pas surpris si votre médecin traitant n'a pas toutes les réponses par rapport à ça, puisqu'en fait, il doit se former dans le cadre de formation médicale continue. Et évidemment, il a des connaissances sur le syndrome d'apnée du sommeil, sur l'insomnie, bien sûr. Mais il est parfois toujours en difficulté pour certaines approches et il va faire appel souvent à des médecins spécialisés, les pneumologues pour enregistrer les apnées du sommeil, enfin pour dépister. Et puis pour l'insomnie, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de médecins qui traitent spécifiquement l'insomnie. Alors au CHU, on a depuis peu un médecin psychiatre qui est médecin du sommeil en même temps, le docteur Quentin. Et donc si vous avez problème d'insomnie, vous pouvez vous adresser à elle, elle est parfaite, c'est un jeune médecin. Génial, elle fait partie du centre de sommeil. Donc nous on a créé donc les médecins du sommeil, le réseau Veille-Sommeil en Poitou-Charentes, c'est vous voyez Rêve en Poche, voilà l'acronyme. Et vous pouvez contacter Rêve en Poche, il y a un petit site qui est encore très insuffisant, et le numéro de téléphone, vous avez Mélissa, notre assistante qui est là-bas, qui peut vous répondre, entre 10h et midi et je ne sais plus, 13h et 15h. Et on a créé aussi l'Académie du sommeil et de la vigilance, qui est en fait destinée à faire des conférences. Et on a trouvé donc le partenariat avec Mendès France. Et donc ça nous intéresse pour faire de la diffusion de connaissances et surtout de la prévention des troubles de sommeil. Car pour ma part, je suis persuadé que si les gens connaissaient un petit peu la structure du sommeil, on aurait besoin de beaucoup moins de consultations. Et il y a beaucoup de gens qui seraient améliorés. On peut comparer ça au problème de nutrition, au problème de médecine du sport. Lorsqu'on connaît le problème, on a déjà en partie guéri, trouvé la solution. Mais malheureusement, il y a énormément de gens qui ne connaissent pas. Et il n'y a pas d'éducation au sommeil dans le cadre de l'école. Ni l'école primaire, ni l'école secondaire, ni à l'université. Et donc tout le monde vit avec ces problèmes de sommeil qui n'en sont pas en général, mais dont on pense que c'en est un. Voilà. Donc le sommeil n'est pas un problème. Ça, si vous retenez ça déjà, c'est déjà bien. Alors vous, allez-y. Oui. Très bien. C'est très très bien. Où est-ce que vous êtes infirmière scolaire? C'est très bien. Vous faites partie vous êtes dans le groupe des infirmières scolaires de la Vienne avec Madame Claire Bernard. Ah d'accord. Ben, moi j'ai fait des topos pour vous alors. D'accord. Oui, mais ça, c'est très, très important. Mais le rôle des infirmières scolaires est majeur. Il faut absolument éduquer les enfants, très jeunes, et les parents, bien sûr, et les personnes âgées qui ont des difficultés par rapport à leur sommeil ou qui pensent avoir des difficultés par rapport à leur sommeil, ne connaissant pas le vieillissement naturel du sommeil. Donc voilà. Donc l'objectif de cette conférence ici, aujourd'hui, c'est juste pour vous rappeler qu'il y a un lien entre la lumière et le sommeil. Et donc, on va parler de ça aujourd'hui. Donc, les conférences qu'on fait avec Mendès France sont sur des thèmes variés, qui ne sont pas tous définis, on verra. Et donc, on va parler de ça. Donc, la lumière, c'est très, très important pour le sommeil, pour ne pas avoir ces troubles majeurs. Et si vous êtes en trouble de sommeil, alors pas forcément les insomniaques, mais vous pouvez avoir des baisses de la vigilance très importantes. Et ces baisses de la vigilance, essentiellement liées à des privations de sommeil, volontaires ou involontaires, on n'a pas nécessairement la notion qu'on est en manque de sommeil. Si vous dormez 6 heures par nuit, vous pensez peut-être que c'est suffisant. Mais si vous avez besoin de 8 heures, il vous manquera 2 heures par nuit de sommeil, ce qui vous fera une nuit de sommeil en moins par semaine. Et donc ça va se cumuler au fur et à mesure des années. Et si vous êtes en travail posté, la nuit, évidemment, quand vous repartez chez vous le matin, eh bien, vous êtes en difficulté. Et il y a des accidents qui sont soit des gros accidents industriels, soit des accidents de la route, qui sont liés à la somnolence, l'endormissement au volant. Vous savez que la cause première des accidents mortels sur autoroute, c'est l'endormissement au volant. C'est 33% des accidents, bien devant l'alcool et la vitesse. Donc la somnolence au volant, c'est un... Mais la somnolence au travail, c'est pareil, c'est des difficultés de concentration, c'est des difficultés de réagir en temps voulu. Donc aujourd'hui, on va parler de la lumière. Alors je vous ai mis cette lumière, ce soleil, en permanence, vous l'aurez sous les yeux. C'est pour ne pas oublier que c'est de la lumière. Je ne sais pas si ça va être efficace. Mais normalement, à cette heure-là, le meilleur moyen, c'est de ne pas s'exposer à la lumière pour bien dormir ensuite. Donc déjà là, on a des problèmes. Mais grâce à toutes ces lumières artificielles, ce gros soleil que je vous ai mis ici, vous ne dormirez pas cette nuit. Le sommeil, on va voir la lumière pour voir, mais pas seulement. La lumière vous sert à voir les objets, mais ça règle votre horloge biologique. On va voir comment ça marche. La lumière règle l'horloge et donc va rythmer notre sommeil. Et on verra un petit peu l'aspect thérapeutique, comment utiliser ces lumières. Cette lumière, vous en avez une ici, je vous l'allumerai à la fin. Donc toujours dans ces conférences, on fait un petit rappel sur ce qu'est le sommeil pour vous initier et pour comprendre ce que c'est. Voilà, la définition, c'est la suspension périodique. Donc ça veut dire que ça survient régulièrement, toutes les 24 heures, normalement, réversible. On peut vous réveiller de votre sommeil, autrement vous êtes dans un état de coma si on ne peut pas vous réveiller. Ce n'est pas du tout la même chose. Et naturel, c'est-à-dire que ce réveil est spontané. On peut vous réveiller en vous stimulant, mais normalement, le matin, vous vous réveillez spontanément. Si vous n'arrivez pas à vous réveiller le matin ou si vous trouvez ça extrêmement difficile, si vous mettez 3 réveils, un seau d'eau au-dessus de la tête, là, vous êtes clairement en difficulté. Donc, si c'est juste un réveil, vous éteignez et puis vous vous rendormez, là aussi, vous êtes en difficulté. C'est probablement qu'il vous manque de sommeil. Mais il y a des maladies pour lesquelles les gens vont avoir 3 réveils. On demande à être réveillé par téléphone parce que c'est des maladies rares, mais ça existe. C'est des gens qui dorment tout le temps. Alors, c'est un phénomène actif, le sommeil. Quand vous dormez, vous êtes dans un état différent, mais le cerveau travaille. En particulier pendant une phase de sommeil qui est le sommeil paradoxal, le sommeil des rêves. Pendant le sommeil des rêves, alors on rêve dans tous les stades de sommeil. S'il y a une question qui vient, on pourra répondre, mais tous les stades de sommeil fabriquent du rêve. Mais le stade qui fabrique le plus de rêves, c'est le sommeil paradoxal. Et le sommeil paradoxal est très actif, plus actif que pendant l'éveil. Donc vous avez différents stades de sommeil comme ça. Et votre cerveau travaille, donc il consomme de l'énergie. Moins pendant le sommeil profond qui est très réparateur. On va voir comment ça s'organise. Et votre sommeil est important quantitativement et qualitativement. Alors les deux sont importants. Vous devez dormir la quantité qui vous est nécessaire. Donc si vous avez besoin de 8 heures, dormez 8 heures, n'est pas 7. Si vous avez besoin de 10 heures, dormez 10 heures et pas 8. Donc les magazines indiquent, et moi aussi je le dis bien sûr, que la moyenne c'est 8 heures, 7h30, 8 heures. Mais si vous avez besoin de 10 heures, dormez 10 heures. Alors, pour dormir 10 heures, parfois, quand on travaille, ce n'est pas facile. Donc, il faut savoir se coucher plus tôt que les autres ou se lever plus tard. Mais il y a des contraintes sociales qui nous empêchent et donc on doit aller travailler le matin. Et qualitativement, ça veut dire que parfois, vous prenez votre quantité de sommeil correcte. Vous avez 8 heures ou 9 heures de sommeil, mais la qualité de votre sommeil est perturbée, soit par des bruits, soit par la lumière qui va vous éclairer, soit venant de l'extérieur, soit parce que vous avez dans votre chambre une lumière, tout simplement une grosse veilleuse qui vous éclaire. Où vous n'avez pas éteint, soit parce que votre sommeil lui-même est perturbé par des événements pathologiques. le plus fréquent, c'est des apnées au cours du sommeil. On peut avoir des mouvements périodiques, de l'agitation au cours de la nuit, qui vont altérer la qualité du sommeil. Donc vous dormez, mais le sommeil est de mauvaise qualité. Donc globalement, le sommeil représente un tiers de votre vie. Vous dormez 8 heures et les journées durent 24 heures, donc ça fait un tiers. Donc ça veut dire que vous y passez beaucoup de temps. Donc c'est certain que ça sert à quelque chose. On ne peut pas imaginer que notre organisme que le développement de la vie, en particulier des humains, mais tous les animaux ne dorment pas le même temps, se soit fait avec un tiers de notre vie inutile. Donc ne pensez pas que le sommeil est inutile. Donc là aussi, si vous repartez avec la notion que le sommeil est utile, c'est bien. Si on demande à une population, est-ce que vous pensez que le sommeil est bon pour la santé? Eh bien, 100% des gens disent oui. 100% des gens pensent que le sommeil est bon pour la santé. Mais il y a 100% des gens qui font très mal, enfin 100%, disons 80% des gens qui vont faire très mal par rapport à leur sommeil et qui s'en foutent complètement. Donc c'est bon pour la santé, mais j'y fais pas attention. Donc ça, c'est pas bien. Comment ? Oui, oui, bah oui. C'est comme ça, mais il faut changer. J'ai une opinion très tranchée sur la cigarette, pour ma part. Voilà. Donc, quelle est la tendance au sommeil dans la journée ? C'est la première notion que vous connaissez, parce que vous la subissez tous les jours. Mais parfois, vous luttez contre cette tendance au sommeil, en particulier au cours du moment de début d'après-midi, ici, vous avez la tendance à vous endormir. Alors, cette courbe, vous voyez, c'est 8 heures, 8 heures, donc c'est 24 heures. Ah oui, c'est 24 heures. Et en bas, vous êtes éveillé. En haut, vous avez envie de dormir. Donc, vous suivez la courbe continue et elle représente l'envie de dormir au cours des 24 heures. Et quand on compte la quantité de sommeil, on compte la quantité de sommeil sur 24 heures. Autrement dit, si vous dormez 3 heures dans la journée, eh bien, ce n'est pas 3 heures que vous aurez pour la nuit. Et si vous avez besoin de 8 heures sur 24 heures, il est illusoire de vouloir dormir 8 heures dans la nuit si vous avez dormi 3 heures dans la journée. Je dis ça pour les plus anciens. Donc ici, vous avez normalement le matin, vous êtes bien éveillé, vous ne devez pas avoir de difficulté à vous réveiller le matin, et ce n'est pas le réveil qui vous réveille. Le réveil, c'est une sécurité, parce que vous êtes couché un peu plus tard, la veille au soir. Normalement, vous vous réveillez en même temps que le réveil, spontanément, et vous éteignez le réveil. Mais donc, vous ne devez pas avoir de difficulté. Si vous êtes en difficulté, c'est qu'il vous manque du sommeil, ou vous avez un problème au cours du sommeil. Ensuite, dans la journée et en début d'après-midi, vous avez tendance à vous assoupir normalement. Mais vous pouvez résister très facilement. Alors, certaines personnes qui ont besoin de sieste et d'autres pas. Mais pour tout le monde, on a cette sensation d'endormissement début d'après-midi. Et puis, vers 18h, on est parfaitement éveillé. Alors, ça dépend des gens. Vous n'êtes pas forcément dans ce circuit-là. Mais globalement, ici, on est très efficace. Et à partir de là, on va avoir un besoin de sommeil qui va augmenter progressivement pour être majeur vers 5h du matin, au moment où la température corporelle est au minimum. Votre température corporelle diminue ici le soir, diminue pour être au minimum vers 5h du matin. Et c'est là, vous verrez, je vous montrerai une courbe, où vous avez le plus de chances de vous endormir. Et malheureusement, Et bien si on regarde la courbe des accidents de la route, et ça c'est un petit message, en bleu ici, sur 24 heures, et bien vous voyez que c'est tout à fait lié à l'endormissement. Donc il y a un fond d'accident de la route et vous avez des accidents plus fréquents au moment du début d'après-midi et maximum vers 4-5 heures du matin. Donc ne conduisez pas à cette heure-là, surtout si vous n'avez pas dormi auparavant. Et quand vous vous réveillez à 3 heures du matin pour prendre la route, vous roulez une heure et à 5 heures du matin, parce que votre température corporelle est basse, eh bien vous vous endormez même si vous n'avez fait qu'une demi-heure de route. Vous avez un risque très fort de vous endormir. Et les accidents de la route, vous voyez, sont plus fréquents alors que le trafic est minimum la nuit. Donc il y a plus d'accidents la nuit alors qu'il y a moins de trafic parce que vous êtes tout simplement moins éveillé. Alors là, il y a une campagne qui vient de sortir par la sécurité routière et ne parle pas du tout de la somnolence, l'alcool et la vitesse, alors qu'on les prévient en permanence. Enfin bref. Donc voilà la structure du sommeil normal. C'est pas forcément le vôtre. Donc quand vous vous endormez le soir ici, alors ça s'appelle un hypnogramme, ça c'est un schéma. L'hypnogramme est construit à partir d'enregistrement du sommeil. Et quand vous êtes au lit, personne peut savoir si vous dormez ou pas, si vous gardez les yeux fermés, si vous bougez pas. Il n'y a aucun moyen de le savoir. Ça, c'est l'aspect comportemental. On ne peut pas apprécier qu'une personne dort ou ne dort pas uniquement par son comportement. Vous pouvez rester allongé au lit 24 heures sur 24. Il y a des périodes où vous dormirez, des périodes où vous ne dormirez pas. Mais si vous ne bougez pas du tout, on ne le sait pas. Donc le seul moyen de savoir si une personne dort, c'est de faire un enregistrement du sommeil. C'est pour ça qu'on a toujours la nécessité, pour explorer le sommeil, de faire un enregistrement. Parfois, on étudie le rythme veille-sommeil par d'autres techniques plus simples, mais on n'explore pas véritablement le rythme, le sommeil, on explore l'activité et le repos, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc là, quand on enregistre le sommeil, on va pouvoir définir un hypnogramme, c'est-à-dire la structure du sommeil au cours de la nuit. Alors là, le sommeil s'organise en cycle de 90 minutes, vous voyez, à peu près. Donc il y a une phase de 90 minutes, puis une autre qui recommence presque à l'identique, mais pas tout à fait à l'identique. La qualité du sommeil à l'intérieur n'est pas la même. Donc normalement, vous allez mettre moins de 30 minutes à vous endormir si vous avez moins de 40 ans. Donc déjà, si vous avez plus de 40 ans et vous endormez en plus de 30 minutes, ce n'est pas un drame. Ça fait partie de la norme. Et si vous êtes jeune, c'est quelques minutes en général, mais vous voyez, on est large, c'est moins de 30 minutes. À 70 ans, 75 ans, c'est 40-45 minutes. Donc les gens, évidemment, restent 45 minutes au lit, ça les énerve un petit peu, mais il faut savoir que dans ces cas-là, il faut se lever et on fait autre chose. Ensuite, vous vous endormez en sommeil léger, et ensuite, vous allez passer ici en sommeil profond. Donc ici, les traits horizontaux représentent le temps passé en sommeil profond. Donc, vous voyez que le sommeil profond est abondant en début de nuit, au cours du premier cycle, du deuxième cycle, et au fur et à mesure de la nuit, il y a de moins en moins de sommeil profond, et pour les deux ou trois derniers cycles, il n'y a plus de sommeil profond. Chez le sujet âgé, il n'y a pratiquement pas de sommeil profond. Chez le sujet jeune et l'enfant, on a du sommeil profond qui va se répéter tous les cycles au cours de la nuit. Donc le sommeil profond est très abondant chez les enfants, chez les sujets jeunes, les jeunes adultes. Et au fur et à mesure du vieillissement, on a un sommeil qui est de moins en moins profond. Or, c'est pendant le sommeil profond qu'on va être le plus difficile à se réveiller. Donc s'il y a un bruit, une lumière, si on vous touche, vous ne vous réveillez pratiquement pas pendant le sommeil profond. Mais au contraire, pendant le sommeil léger, ça devient plus facile. Léger, profond, ça fait référence à l'intensité de la stimulation qu'il faut appliquer pour vous réveiller. Donc si vous êtes en sommeil profond, il faut vous stimuler très fort. Il faut que le bruit soit intense. Si vous êtes en sommeil léger, un moindre bruit dans la rue va vous réveiller. Et les sujets âgés, alors quand je dis âgés, c'est à partir de 50 ans. 55 ans. Vieux, c'est à partir de 50 ans. Donc, très vieux, c'est 80. Voilà. Et centenaires, c'est autre chose. Vous savez que les centenaires dorment 9 heures par 24 heures. Ils dorment très bien, les centenaires. Parce qu'ils dorment bien, ils vivent 100 ans. Donc ici, vous voyez qu'il y a du sommeil léger. Ce sommeil léger remplace le sommeil profond quand on vieillit. Donc on se réveille plus facilement. Et quand on se réveille en vieillissant, on reste éveillé plus longtemps. Donc de temps en temps, vous allez vous réveiller à la fin d'un cycle de sommeil. Un cycle de sommeil, c'est le sommeil léger, le sommeil profond, et à la fin, le sommeil paradoxal en vert ici. Le sommeil paradoxal, c'est le sommeil des rêves. Et à la fin de cette phase, vous pouvez vous réveiller, vous souvenir de votre rêve. Et normalement, si vous êtes jeune, vous vous rendormez aussitôt. Et ensuite, si vous êtes moins jeune, eh bien, vous mettez plus de temps à vous endormir. 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure. Et ça, ça énerve aussi. Donc voilà. Mais ça, c'est normal. Et je dis toujours, les éveils au cours de la nuit, quand on est plus âgé, c'est les rides de la peau, c'est le vieillissement du sommeil. Mais vous, vous ne savez pas que le voisin il se réveille 10 fois dans la nuit. Alors, ce n'est pas vrai, hein, c'est de 2 à 4 fois. Une personne de 80 ans se réveille 2 fois et demie dans la nuit, en moyenne. Donc, vous voyez, il y a des gens qui disent « mais je réveille 10 fois dans la nuit ». C'est vrai pour cette personne, mais en moyenne, ça ne l'est pas. Donc, si on se réveille 2 à 3 fois, c'est normal. Mais on se réveille dans la nuit, et puis les éveils vont augmenter en durée, ils vont être plus fréquents, donc en une nuit fragmentée. Et ça, c'est normal. C'est la structure normale du sommeil vieillissant. Le sujet jeune, lui, se réveille ou pas, il se rendort aussitôt. Et vous avez ici le sommeil paradoxal qui est de plus en plus abondant au cours de la nuit. Et en fin de nuit, vous avez beaucoup de sommeil paradoxal et vous pouvez vous réveiller facilement en phase de rêve et vous vous souvenez de vos rêves. Ça peut être une phase de cauchemar et vous vous souviendrez de votre cauchemar aussi. Et le sommeil, le somnambulisme, c'est pendant une phase de sommeil profond en début de nuit. Alors, il y a tout un tas d'événements au cours de la nuit, mais retenez ces structures de sommeil avec des cycles. Vous pouvez vous réveiller à chaque cycle. Et les personnes nous disent souvent, mais je ne dors pas de la nuit, je me réveille toutes les heures ou toutes les 2 heures. Mais ils se réveillent à chaque cycle de sommeil. Ça, c'est normal. Ce n'est pas ne pas dormir, c'est se réveiller à la fin d'un cycle de sommeil. D'accord ? Et donc, si on connaît ça, eh bien, on sait que ce n'est pas anormal. Si c'est gênant, on se lève, on fait autre chose, tranquille, pas d'activité physique intense, pas d'exposition à la lumière, on va en parler, mais on fait autre chose, et quand le sommeil revient, on va se coucher. Et si le sommeil ne revient pas, on se relève, etc. Ça peut amener à une nuit blanche. Mais la nuit d'après, on dort mieux. Alors, bon, ça c'est pour des rappels, je dirais, parce que c'est pas l'objet de la... Mais cette structure du sommeil, oui. Toujours un peu, oui. Ça peut être moins, ça peut être plus. Bah, une heure et quart, oui, ça fait, oui. Ça fait, oui. Oui, oui, tout à fait, oui. Alors, quand je dis 90 minutes, c'est en moyenne, hein, c'est la moyenne. Ça peut aller de 60 minutes à 2 heures, hein, en fait. Mais très, très généralement, c'est autour de 80, 90, 100 minutes. Mais c'est très variable. Au-delà de 2 heures, on considère que les cycles sont trop longs. Mais souvent, il y a un problème d'éveil ou de pathologie du sommeil, des apnées ou des mouvements périodiques au cours de la nuit. Mais effectivement, ce n'est pas tout le monde 90 minutes pile. Ah ben, posez toutes les questions que vous voulez, on est là pour échanger.
Merci. C'est juste pour savoir si quand on est, si on obtient le même hypnogramme, quand on est complètement, quand les gens sont complètement décalés, c'est-à-dire que là, on a bien une représentation avec un coucher à 23h et un lever à 6h, oui. Est-ce qu'on va avoir à peu près les mêmes phases, les mêmes cycles, avec la même structure? Je ne sais pas si la personne se couche à 3 heures du matin et a un même cycle. Voilà, c'était ma question.
Oui, d'accord, j'ai compris. Alors, ça dépend effectivement de l'heure à laquelle vous allez vous coucher. Si vous vous couchez habituellement à 23 heures, vous allez commencer votre nuit comme ça. Et si vous couchez à minuit, 1 heure du matin, ce sera toujours la nuit. Vous la commencerez toujours par le sommeil profond et les cycles tels qu'ils sont représentés ici. Et donc, si vous écourtez votre nuit, ce sera la fin de nuit que vous allez écourter, le sommeil léger et le sommeil paradoxal. Si vous vous couchez pas trop tard. L'histoire des minuit, ça vaut pas, c'est pas trop tard. Alors qu'est-ce que ça veut dire, pas trop tard? Donc vous commencez votre nuit toujours par le sommeil profond, ce qui fait que quand vous dormez peu, 4 à 5 heures, vous avez fait vos 2 ou 3 cycles de sommeil profond, ça dépend de l'âge à laquelle vous vivez. Donc si vous avez 20 ans, eh bien, vous faites beaucoup de sommeil profond, mais si vous avez 50 ans, vous en faites moins. Mais vous faites toujours votre sommeil profond au début, et c'est le sommeil profond qui est très réparateur sur le plan physique. Physique. Et donc, après 4 ou 5 heures de nuit, vous vous sentez en pleine forme. Surtout si vous vous réveillez naturellement après 2 ou 3 cycles de sommeil. Se réveiller pendant la phase de sommeil profond, c'est perturbant. Hein. On n'aime pas. Ensuite, si vous vous couchez trop tard. Alors, trop tard, c'est quoi? C'est au moment où vous avez passé le minimum thermique. Disons vers 4 heures ou 5 heures du matin. Là, vous allez avoir des difficultés à passer en sommeil profond, tout simplement parce que l'organisme se prépare à vous réveiller. La température centrale augmente et il y a tout un tas d'hormones qui vont augmenter pour préparer l'organisme à être actif. Et donc, vous vous couchez au moment où votre organisme, lui, veut se réveiller. Et donc, là, vous ferez moins de sommeil profond et vous ferez beaucoup de sommeil léger, éventuellement du sommeil paradoxal, et vous pouvez même vous endormir en sommeil paradoxal, ce qui n'est pas normal. Donc, ça dépend de l'heure à laquelle vous vous couchez. Mais pour changer cette structure, il faut se coucher très tard. C'est ce qui se passe pour les gens qui travaillent de nuit. Les gens qui travaillent de nuit se couchent le lendemain matin vers 7 ou 8 heures. Et donc, eux ont des difficultés à passer en sommeil profond, même si c'est des gens qui travaillent de nuit depuis longtemps. Donc, ils ont un sommeil écourté et de mauvaise qualité. Et ça provoque des difficultés, maintenant on le sait. Donc, on a besoin de la lumière pour voir. Donc là, vous me voyez, je vous vois. Là, c'est l'œil qui nous sert à ça. Donc, évidemment, je ne vais pas vous faire la physiologie de l'œil. C'est simplement pour vous rappeler qu'un œil, ça sert à voir. Et qu'ici, au bout, il y a une rétine. Et c'est cette rétine qui capte la lumière. Et voilà la lumière que vous voyez, hein, le spectre lumineux en nanomètre. Ici, ça va du bleu au rouge. Ça, c'est ce qui vous permet de voir les objets et la couleur. Pour voir la couleur, il faut beaucoup de lumière. Quand vous êtes à l'obscurité, vous ne voyez pas la couleur. Donc vous avez deux types de photorécepteurs différents. Ceux qui voient la lumière intense et la couleur, et ceux qui voient le noir. Quand vous êtes la nuit, vous voyez. Il n'y a pas beaucoup de lumière, mais vous la voyez. Donc ça s'appelle des photorécepteurs, donc des récepteurs des photons. Eh bien, c'est ça. Ces photorécepteurs, c'est ceux qui nous permettent de voir. Et on a découvert tout récemment. Alors, à partir de là, il y a toute une information qui va être véhiculée par les voies optiques et qui va nous permettre d'identifier les objets et de reconnaître notre environnement. Eh bien, tout récemment, on a découvert qu'il y avait d'autres cellules dans la rétine qui ne servent pas à voir, mais qui servent à repérer la présence de lumière. Tout simplement. Ce qui fait que même si pour les gens qui ont des des affections de la rétine, des rétinopathies qui détruisent ces photorécepteurs et donc qui ne voient plus. Si on garde ces cellules-là, eh bien, l'information lumière, présence ou absence de lumière, persiste. Donc il y a des aveugles qui ont encore ces cellules-là qui persistent. Et donc ils captent la lumière sans s'en rendre compte. Mais ces récepteurs particuliers à la lumière ne sont pas destinés à la vision. Ils sont destinés à autre chose. Et en particulier à l'horloge biologique. Je vais vous en parler. Et c'est cette horloge biologique qui va informer une glande qui s'appelle l'épiphyse de la présence de lumière. Donc il y a un petit circuit qui est très important, qui passe par l'horloge biologique, qui va sur une glande, l'épiphyse, et l'épiphyse va sécréter une hormone qui s'appelle la mélatonine, et qui va être, lorsqu'elle est présente, eh bien, va indiquer la présence d'obscurité, et non pas de lumière. Donc je vais vous expliquer ça, et pour expliquer ensuite comment ça marche au niveau de la lumière. Donc c'est ça que vous devez comprendre. Donc le sommeil est lié à différentes horloges. Alors il y a l'horloge interne, l'horloge biologique, il y a l'horloge temporelle, c'est l'alternance jour-nuit, noir, il fait jour. Et puis l'horloge sociale, c'est nos rythmes sociaux qui nous imposent de nous lever le matin ou de nous coucher le soir ou de manger à midi, etc. L'heure des repas est très importante pour régler aussi cette horloge biologique. L'alternance lumière-obscurité, mais aussi l'heure des repas. Le grignotage dans la journée est très néfaste, moins que l'alternance lumière-obscurité, mais c'est néfaste pour l'horloge biologique. Alors en France, on a de la chance parce qu'on a eu Michel Siffre qui s'est enfoncé dans un gouffre dans les années 60 qui a mis en évidence cette horloge biologique. Et il a ressenti un immense plaisir à retrouver le ciel bleu et le souffle du vent parce que pour démontrer la présence d'une horloge biologique interne, propre à l'individu, il faut s'isoler de l'extérieur aussi bien et en particulier de l'alternance lumière-obscurité, mais aussi des rythmes sociaux, de la température, du vent, du degré d'hygrométrie et le mieux, c'est la grotte. Et qu'est-ce qui se passe quand on est isolé? Eh bien, voilà ce qui se passe. Et je vais vous donner deux choses sur ce schéma. Alors, ce schéma représente pour chaque ligne la période de sommeil et en pointillé la période d'éveil de la personne. Alors, ça, c'est un schéma qui synthétise un très grand nombre d'expériences. Donc, vous voyez ici, cette personne dort et le petit triangle qui est là représente le minimum de la température centrale, le minimum thermique. Donc ici, cette personne se couche, elle est en repère temporel et conditions naturelles. Donc elle sait quand il fait noir, elle sait quand il fait jour. Elle se couche, elle dort, et puis ici, le minimum de la température, et là, elle est éveillée. Et tant qu'elle est en condition d'alternance lumière-obscurité est connue, donc un rythme de 24 heures, l'alternance lumière-obscurité, c'est la rotation de la Terre, c'est 24 heures, et bien ça reste à peu près constant, vous voyez. Ici, c'est 4-5 heures du matin. Et ensuite, elle passe en isolement temporel, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun repère, ni lumière, ni température, ni repères sociaux. Donc elle fait ce qu'elle veut, à vrai dire. Et dans ces cas-là, on voit que la période de sommeil, vous voyez, elle se couche de plus en plus tard, ça dérive progressivement. La période d'éveil est assez longue, alors ça varie, hein, je ne rentre pas dans les détails. Et vous voyez que progressivement, le minimum de température se décale, et là, la personne s'endort au moment du minimum thermique. Là, cette personne ne sait pas, elle, que c'est son minimum thermique. Elle va se coucher quand elle en a envie. Donc, il y a un lien entre le minimum thermique et l'endormissement. Et ça rejoint les accidents de la route vers 5 heures du matin. Donc, on s'endort très, très facilement au minimum thermique. Et ensuite, on dort, et puis on est éveillé. Et si on reprend les conditions naturelles, vous voyez qu'on va s'endormir et que progressivement, on va reprendre, on va se rythmer à nouveau sur 24 heures. Mais pendant cette période de dérive, on ne vit pas sur 24 heures. On vit sur une période plus longue de 24 heures et 15 ou 20 minutes. Donc la journée, pour l'horloge interne, votre organisme ne vit pas sur une journée de 24 heures, mais sur une journée de 24 heures et un peu plus. Ça peut être 10 minutes de plus, 15 minutes, 20 minutes, ça dépend des gens. Et on a découvert tout récemment que pour certaines personnes, c'était plus court. C'est 23 heures et 50 minutes ou 55 minutes. Mais si vous voulez décaler de 10 minutes par jour, au bout d'un mois, ça fait beaucoup. Vous voyez, on a décalé depuis Noël de 1 à 2 minutes de soleil en plus par jour, là maintenant on arrive à une heure de plus de décalage. Donc ce décalage ici peut être très important au bout de 15 jours, 3 semaines. Et c'est pourquoi est-ce qu'on décale? C'est parce qu'on est plus rythmé par la lumière. Et qu'est-ce qui rythme? Qu'est-ce que fait cette lumière? C'est qu'elle va régler une horloge qui s'appelle l'horloge biologique, l'horloge interne. C'est le rythme circadien sur les 24 heures et notre sommeil est très dépendant de ce rythme circadien qui lui-même est très dépendant de la lumière. Donc voilà un rythme circadien. Donc en noir, les périodes de sommeil. En blanc, les périodes éclairées. Vous voyez que c'est à peu près constant. Hein, voilà. Et si on détruit une petite structure dans le cerveau qui s'appelle le noyau suprachiasmatique, il y en a deux, donc c'est tout petit, mais si on les détruit, vous voyez la structure de l'alternance veille-sommeil. Il n'y a plus d'organisation. On dort la même quantité, mais le rythme a disparu. Donc si vous voulez dormir le soir, à 22h ou à 23h, vous avez tout intérêt à garder ce rythme-là. Et ce rythme-là, il est entretenu par la lumière, en grande partie. Donc si vous faites n'importe quoi avec la lumière, eh bien, vous allez passer, là c'est exagéré, c'est une lésion, mais votre horloge biologique va être déréglée. Vous savez qu'elle se dérègle très très facilement. Et vous le savez très bien qu'au printemps et à l'automne, on change d'horaire. On décale d'une heure vers l'avant ou vers l'arrière, je ne me souviens jamais dans quel sens ça va. Mais vous êtes perturbé. Et pourtant, vous avez décalé une heure. Et mais dès le lendemain, vous n'arrivez plus à dormir à l'heure qui est attendue. Pour vous, hein ? Oui. Alors c'est pareil, c'est la lumière du jour. Hein, mais plus on est exposé à la lumière du jour, plus on va être mieux calé. Mais vous êtes, c'est à peu près cette lumière-là suffit pour nous décaler. Hein. Donc en fait, quand on va régler notre rythme veille-sommeil, on a un état de sommeil et un état de veille. Et quand vous êtes endormi, eh bien normalement vous vous réveillez pas. Vous avez des mécanismes qui vous empêchent de vous réveiller. Et ça, c'est l'horloge biologique, en partie, qui va régler les deux. Donc l'horloge biologique va appuyer sur le côté sommeil, il n'y a pas que ça, mais va appuyer sur le côté sommeil pour vous faire dormir le soir au bon moment. C'est le rythme circadien. À la limite, vous vous couchez, vous n'avez pas envie de dormir, mais c'est l'heure de dormir. Et ça, c'est l'horloge biologique qui vous donne l'heure de dormir. Mais si vous êtes éveillé depuis longtemps, vous pouvez avoir une pression de sommeil très forte. Plus vous êtes éveillé, plus vous avez envie de dormir. Mais s'il est 18h et que vous allez vous coucher, vous n'aurez pas forcément envie de dormir. Vous ne vous endormirez pas. Ce n'est pas la bonne heure pour vous, même si vous avez une forte envie de sommeil. Mais si vous allez vous coucher à 23h, parce que habituellement vous vous couchez à 23h, eh bien à ce moment-là, même si vous n'avez pas dormi entre 18h et 23h, et surtout si vous n'avez pas dormi, vous vous endormirez. Parce que l'heure est adapté à votre besoin. Et cette heure d'endormissement, eh bien, c'est l'horloge biologique qui va la régler. Alors, il y a des gens qui vont s'endormir plus tard et d'autres plus tôt, à voir. Et lorsque vous êtes endormi, eh bien, tout est fait pour ne pas vous réveiller. Hein, il y a une inhibition des circuits de l'éveil. Et le matin, eh bien, c'est l'inverse. Vous vous réveillez et en partie, et grâce à l'horloge biologique, qui va décider de vous réveiller le matin à 6h ou à 7h du matin. Parce qu'il y a eu l'obscurité entre les deux. Et vous n'êtes pas exposé à la lumière. Et là, à ce moment-là, vous avez de l'éveil, et quand vous êtes éveillé, tout est fait pour ne pas dormir. Les mécanismes de l'éveil s'opposent aux mécanismes du sommeil. Et donc, normalement, quand vous êtes éveillé le jour, vous n'avez pas envie de dormir. Mais vous êtes éveillé le matin à 7h, et vous allez rester éveillé pendant 17-18h. Ou 15h, ou 14h, ou 12h, ça dépend des gens. Et pendant cette période d'éveil, vous accumulez un besoin de sommeil qui sera nécessaire à l'endormissement le soir. Mais pas à n'importe quelle heure. À l'heure réglée par votre horloge biologique. Donc vous avez deux choses. L'accumulation du besoin de sommeil dans la journée et l'heure à laquelle vous allez vous endormir. C'est deux événements différents, mais qui sont liés. Et donc c'est la lumière, bien sûr, qui va rythmer votre sommeil. Alors évidemment, cette lumière, vous voyez, ça vous éveille. Pas la lumière qui endort, la lumière ça éveille. Ça. C'est l'alternance lumière-obscurité qui va vous régler. C'est la lumière du soleil ou la lumière artificielle qui rythme notre sommeil. Et c'est grâce à la lumière artificielle, depuis qu'on a découvert la lumière artificielle, c'est grâce à cette lumière qu'on a réduit notre temps de sommeil d'environ 1h30 sur un siècle. Donc est-ce que c'est un bien ou un mal ? Actuellement, on pense que c'est plutôt un mal et qu'il faudrait revenir à des choses plus sérieuses et savoir éteindre la lumière le soir. Être à l'obscurité pour préparer son sommeil. Plus vous êtes éclairé le soir, moins vous aurez envie de dormir. Vous favorisez l'éveil. Donc ça règle tous les jours notre horloge biologique. Et vous voyez, si vous vous exposez à la lumière le soir, là c'est à l'obscurité, le soir, bien vous avez toutes les chances de ne pas vous endormir à l'heure, parce que ça va vous maintenir éveillé. Alors qu'est-ce qui fait qu'on est réglé à l'heure ? Eh bien c'est tout simplement la présence d'une hormone, la mélatonine. Donc cette petite glande d'épiphyse que je vous ai mentionnée tout à l'heure sécrète une hormone, la mélatonine. Alors là, vous avez 24 heures de sécrétion, 12 heures 12 heures, la période d'obscurité, donc la nuit. Et vous voyez que dans la journée, eh bien, il n'y a pas de sécrétion de mélatonine. La lumière inhibe, empêche la sécrétion de mélatonine. Et de manière très rapide. Hein. Donc si vous êtes éclairé dans la journée, il n'y a pas de sécrétion de mélatonine. Lorsque le crépuscule apparaît le soir, eh bien, la lumière n'est plus là. Il n'y a plus d'inhibition de la sécrétion de mélatonine par l'épiphyse. L'épiphyse peut libérer sa mélatonine. Ça monte tout doucement. Et là, vous avez envie de dormir. C'est au moment de la montée de la mélatonine et de la baisse de température. Et ça, c'est un fort indicateur pour le début du sommeil. Donc, quand votre mélatonine monte le soir, eh bien, vous avez envie de dormir. Et comme la température centrale descend, tout est coïncident pour aller dormir. Et vous allez vous coucher, la mélatonine monte, et comme vous êtes bien à l'obscurité, elle ne descend pas. Si vous êtes éclairé la nuit, eh bien, elle va descendre et vous vous réveillerez plus facilement. Vous allez faciliter l'éveil. Et le lendemain matin, quand la lumière réapparaît, eh bien, la mélatonine diminue. Oui. Pareil, c'est exactement pareil. Simplement, ils ont des périodes d'obscurité plus longues, donc ça, ils ont plus de difficultés. Par exemple, il y a plus de dépression et il y a des traitements. Maintenant, on utilise la luminothérapie pour améliorer les choses. Donc ça, c'est très, très important. Et la mélatonine est donc le marqueur de l'obscurité. Votre organisme, par l'intermédiaire de l'horloge biologique, il y a un lien entre la rétine qui indique à l'horloge biologique qu'il y a de la lumière ou de l'obscurité, ou pas de lumière. Et l'horloge biologique indique à l'épiphyse qu'il faut sécréter la mélatonine. Et la mélatonine, pour le reste de l'organisme, en particulier pour les circuits du sommeil, c'est le marqueur de l'obscurité. Et donc, tant que vous sécrétez de la mélatonine, a priori, vous êtes à l'obscurité. Si vous êtes à la lumière, ça diminue et le sommeil n'est pas favorisé. Et la mélatonine, quand elle va commencer à être sécrétée, va déclencher l'endormissement. Oui. Alors, le fait de fermer les yeux, si vous êtes en pleine lumière, ça ne sert à rien. Simplement, ça diminue la quantité de lumière, mais vous voyez une lumière rouge. Donc, le mieux, c'est d'être à la pénombre ou à l'obscurité. Mais le fait de fermer les yeux, c'est destiné à se préparer à l'endormissement. Lorsque vous vous endormez le soir, la première chose à faire, c'est de se mettre au calme et de diminuer toutes les stimulations sensorielles. Le bruit, la lumière. Donc, fermer les yeux, ça diminue la quantité de lumière qui arrive. Oui. Alors, pour les enfants, ça c'est assez compliqué parce que l'enfant veut de la lumière, pas de lumière. Donc, il faut une veilleuse de faible intensité, comme pour les adultes, c'est pareil, et pas face aux yeux. Hein. Alors, après, est-ce qu'on la laisse tout le temps, pas tout le temps ? Ça c'est. Mais si le gamin a l'habitude de s'endormir avec une veilleuse, il ne faut surtout pas l'éteindre sans lui dire. Donc on ne va pas le réveiller pour lui dire j'éteins la lumière, parce que le problème sera le même. Donc on lui dit avant. Quand tu te réveilles, si tu te réveilles la nuit, eh bien il n'y aura plus la veilleuse. Mais globalement, après en vieillissant, ça, il y a encore des adultes qui ont besoin de veilleuse. Et les sujets âgés, il faut recommander la veilleuse pour éviter les chutes, pour qu'ils puissent voir s'ils ont besoin d'aller aux toilettes. Mais des veilleuses de faible intensité et situées derrière les yeux, et qui ne permettent pas la lecture. Voilà, si vous pouvez lire avec une lumière, c'est qu'elle est trop intense. Moi, c'est le repère que je donne. Alors voilà la sécrétion de mélatonine, vous voyez, donc 8 heures, ici 8 heures et 14 heures, donc ça c'est la période d'obscurité. Là, il y a la lumière, ça rythme votre éveil. En fait, quand vous êtes à la lumière, eh bien, vous êtes éveillé, c'est un fort stimulant d'éveil, et ça empêche la sécrétion de mélatonine. Et vous voyez qu'en vert ici, la mélatonine monte plus tôt et se termine plus tôt. Pourtant, c'est la même période d'obscurité. Eh bien, lorsque ça commence un peu plus tôt et que ça se finit un peu plus tôt, on a constaté que c'était les gens du matin. Donc, les personnes du matin, leur mélatonine est sécrétée un petit peu plus tôt. Donc, ils ont tendance à s'assoupir avant les autres. Et c'est très vrai pour certaines personnes qui vont aller se coucher à 20h ou 21h, 21h, 21h30. Elles se lèvent plus tôt. Donc, il y a un décalage un petit peu de la mélatonine vers plus tôt le soir. Pour les gens du soir, eh bien c'est l'inverse. La mélatonine commence un peu plus tard. Et donc, la mélatonine n'ayant pas commencé à monter, les gens n'ont pas envie d'aller se coucher. Et donc, si un couple est fait d'une personne du soir et une personne du matin, généralement, eh bien, c'est la personne du soir qui gagne. C'est-à-dire que la personne du matin va se décaler un petit peu vers le soir, mais arriver vers une heure un peu tardive, 22h, 22h30 pour elle, elle va finir par s'endormir devant la télé en général, alors que celui du soir va résister très très bien. Donc on ne sait pas toujours si on est du soir ou du matin, eh bien c'est la facilité avec laquelle on a à prolonger sa soirée. Si vous pouvez vous coucher à 1h, 2h du matin sans difficulté, en général c'est que vous êtes du soir. Et ceux qui sont du soir font des grasses matinées. Alors ça, évidemment, il ne faut pas faire cette grasse matinée. Dès que vous vous réveillez le matin, il faut vous exposer à la lumière, si vous avez des difficultés à l'éveil, pour faciliter votre réveil. De l'exercice le matin, de la lumière le matin, mais pas le soir. Pas de lumière le soir, pas d'exercice le soir. Il faut faciliter l'endormissement. Et les gens intermédiaires, ben la mélatonine, ce qui représente plus de 80-90% des personnes, eh bien c'est entre les deux. Mais vous voyez, les caractéristiques, les hormones sont là pour... Et ça, cette caractéristique du soir ou du matin, il y a long et court dormeur, c'est lié à nos gènes. Vous êtes génétiquement programmé pour être du matin ou du soir, court ou long dormeur. Et ça, vous n'y pouvez rien. Et dès la naissance, donc il y a des nourrissons long dormeurs, des nourrissons court dormeurs, il y a des nourrissons du soir et des nourrissons du matin. Enfin, des nourrissons quand ils sont calés, hein, par quelques mois. Alors, qu'est-ce qui se passe si on expose une personne à la lumière? L'effet de la lumière, c'est la mélatonine. La lumière diminue la mélatonine, je vous l'ai dit, voire l'empêche complètement, empêche complètement sa sécrétion. Alors, voyez ici, la sécrétion de mélatonine, ça monte, là c'est la lumière, les étoiles et la lune, c'est le soir, et là c'est à nouveau la lumière. Donc normalement, la mélatonine monte, et puis là, eh bien, on s'expose à nouveau à la lumière. Normalement, ça ne se fait pas. Quand est-ce qu'on peut faire ça? Ben, tout simplement quand on ne dort pas, et on se réveille, on va lire un livre... Et où on s'expose à la lumière pour faire ce que vous voulez dans la nuit. Surtout pas d'activité physique, il ne faut pas. Surtout pas de repassage, surtout pas de bricolage. Il y a des gens qui font ça. Et donc, ils sont exposés à la lumière. Et donc là, la mélatonine chute de nouveau et vous n'avez aucune chance de vous rendormir. Donc, ce qu'il faut faire, c'est rester un petit peu à la pénombre. Si on veut lire un peu un magazine, on peut, avec une lumière de faible intensité derrière l'épaule. Et on attend que l'endormissement revienne. Et dès qu'on arrête cette exposition à la lumière, la mélatonine remonte si on est dans la période d'obscurité. Mais vous allez voir que progressivement, et si on fait ça toutes les nuits, eh bien la lumière, la mélatonine va se décaler parce que l'organisme intègre le fait que vous êtes éclairé la nuit et que probablement ce n'est pas le bon moment pour faire monter la mélatonine. Donc progressivement, ça va se décaler. L'organisme s'adapte à vos conditions. Et c'est ce qui se passe quand vous voyagez à l'étranger. Il vous faut 4-5 jours ou quand on change les horaires... D'été et d'hiver, il nous faut 3, 4, 5 jours, ça dépend des gens, pour s'adapter à la nouvelle, aux nouveaux horaires. Et donc ce décalage, la mélatonine peut se décaler, et si la mélatonine se décale, eh bien on décale aussi son sommeil. Vous voyez ici, on va éclairer cette personne le soir, eh bien si on éclaire le soir, on empêche la mélatonine d'être sécrétée, et elle va être sécrétée plus tard, parce qu'on est à la lumière. Et donc, on va décaler la mélatonine vers le matin. Donc, quelqu'un qui s'endormirait trop tôt à son goût, s'il veut se décaler, il faut qu'il s'éclaire le soir. À l'inverse, si vous vous levez trop tard le matin et vous n'arrivez pas à vous lever, on verra à quoi ça correspond, eh bien, il vaut mieux s'éclairer le matin. Donc, il ne faut pas s'éclairer n'importe quand on fait de la luminothérapie. Alors ce rythme de la vie sociale, eh bien, il est très très important. Vous voyez, ça c'est dans la journée, mais il y a aussi la nuit, ou le soir plutôt. Et puis le soir, eh bien, il y a beaucoup de lumière. On est entouré de lumière partout. Et vous voyez, cette jeune femme, eh bien, elle pense ne pas avoir de lumière devant elle. En fait, la lumière qui stimule ces cellules que je vous ai montrées, c'est la lumière bleue, plus facilement. Je vous l'ai mis, mais je ne vous en ai pas parlé. Donc autour de 400 à 500 nanomètres. Et cette lumière bleue, eh bien, essentiellement, les écrans que vous avez, les écrans d'ordinateur, l'écran de télévision, ça c'est le hasard, mais préférentiellement, émettent de la lumière bleue. Donc même si les écrans ne sont pas intenses en lumière, ils vous stimulent très fortement, parce que ces cellules sont plus sensibles à ce type de lumière. Alors ça vous éclaire beaucoup. Eh bien, évidemment, si vous êtes excité comme ça, il y a peu de chances que vous endormiez dès que vous éteignez la lumière. Donc le calme et le repos, le soir, avant d'aller au lit. Parce que si vous attendez, si vous êtes au calme, au repos, au lit, eh bien vous allez finir par chercher à vous endormir. Et si vous cherchez à vous endormir, si vous voulez vous endormir, eh bien ça, c'est une activité éveillante. Le fait de vouloir dormir. Et c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est vouloir dormir. Donc on va au lit quand on s'endort, si on ne s'endort pas, on se lève. Alors, quelles conséquences si la lumière est décalée ou insuffisante? Eh bien, la conséquence, c'est des troubles du sommeil. Alors, vous connaissez des troubles, le jet lag, c'est-à-dire le décalage horaire. Hein, vous allez aux États-Unis ou vers l'Est ou vers l'Ouest. Le travail posté. Il y a des gens qui vont travailler tard le soir ou tôt le matin, et ceci de manière irrégulière parfois, ou en rotation, les 3-8. Et là, évidemment, ça crée des difficultés. L'organisme ne sait pas à quel moment, surtout si vous faites les 3-8, c'est très mauvais, à quel moment il doit vous endormir, à quel moment il doit faire monter sa mélatonine, à quel moment il doit la faire descendre. Ça, c'est très difficile, et donc vous êtes toujours en réglage. Le jet lag, il vous faudra environ 3 à 5, 6 jours, 10 jours pour les plus lents, à vous adapter, en sachant que d'autres rythmes ne vont pas être aussi rapides. Le rythme veille-sommeil est un des rythmes les plus rapides à s'adapter quand on va à l'étranger et qu'on a des horaires décalés. Et puis, lorsque l'horloge est mal calée, alors ça c'est fréquent, ça s'appelle le syndrome de retard de phase ou le syndrome d'avance de phase. C'est très fréquent. Le syndrome de retard de phase, c'est fréquent chez l'adolescent ou le jeune adulte. Vous avez vu ce jeune excité sur son ordinateur? Eh bien ça décale l'endormissement. Les jeunes vont s'endormir à 2, 3 heures, 4 heures du matin, éveillés, et ils vont aller ensuite à l'école en se levant à 6 ou 7 heures, donc ils manquent de sommeil. Le week-end, ils vont récupérer, mais petit à petit, l'organisme s'est habitué à se coucher, à s'endormir à 3 heures ou 4 heures du matin, et c'est bien trop tard. Quand ils rentrent dans la vie adulte, ça crée des problèmes pour certains. 10 à 15% sont véritables problèmes à cause de ça. Donc l'adolescent a naturellement un décalage, donc il retarde son endormissement de manière naturelle, mais avec tous les moyens qu'il a à sa disposition, les ordinateurs, le téléphone portable. Et ne croyez pas que le portable ou les ordinateurs sont éteints. Même s'il les éteint devant vous, il les rallume après, hein. En particulier le téléphone portable. Et même lui, alors le pire, c'est d'avoir le téléphone portable à côté de la main, parce que lui, il dort et c'est le copain qui l'appelle. Et ça, donc, il y a une rupture du sommeil. Il va parler pendant une demi-heure ou elle va parler pendant une demi-heure, trois quarts d'heure au téléphone. Et ça, il y a une interruption brutale du sommeil. Et après, c'est très difficile de se rendormir. Ou si on se rendort, eh bien, à nouveau, il faudra se réveiller tôt. On va manquer très facilement d'une à deux heures de sommeil. L'avance de phase, c'est plus fréquent chez les sujets âgés qui progressivement vont se coucher de plus en plus tôt. Certains vont se coucher à 19h, 19h30. 20h. Donc pour une personne qui a besoin de 8 heures de sommeil, si elle se couche à 20h, à quelle heure elle se réveille, à votre avis? 4h du matin. Donc à 4h du matin, si elle est dans une institution, parfois, eh bien, elle est éveillée, hein, complètement. Eh bien, ça gêne tout le monde. Ou si c'est 3h du matin, et la personne est éveillée, active parfois, ou dans son lit, et donc on va lui donner un hypnotique pour dormir. Et après, c'est le problème, l'hypnotique a été pris, on dort le lendemain matin. Et éventuellement, on va faire des siestes dans la journée. Donc, il y a une dysrégulation. Donc, les sujets âgés, c'est souvent l'avance de phase. Si on veut les décaler, si ça ne gêne pas, on les laisse comme ça. Hein. Ils peuvent se coucher à 20h et se lever à 4h du matin et ça ne pose aucun problème. Si vous vivez sur une île déserte, les retards de phase ou les avances de phase, c'est par rapport à la vie en société. Ça veut dire que dans la société, en française, habituellement, on se couche entre 22h et minuit. Donc si vous vous couchez à 20h, vous êtes en avance par rapport à la société. Voilà ce que ça veut dire. Si vous vous couchez habituellement à 2h du matin, c'est que vous êtes en retard. C'était fréquent aussi chez les gens du spectacle. Alors, et aussi, la dépression saisonnière, là, c'est un vrai problème. C'est que le manque de lumière peut aboutir à la sensation de dépression, plus la déprime qu'une vraie dépression. Donc l'exemple du jet lag, c'est les voyages vers l'ouest qui sont plus faciles à supporter que les voyages vers l'est. Pourquoi? Car quand on va vers l'ouest, vers les États-Unis, on allonge le jour. Hein. On arrive aux États-Unis, il fait jour, alors qu'en France, il fait encore noir. Et c'est plus facile de résister à l'endormissement que de vouloir dormir quand on n'en a pas envie. Hein. C'est impossible de s'endormir si on n'en a pas envie, tous les insomniaques vous le disent. En revanche, si vous avez envie de dormir, très facile de faire une activité, de bouger, pour rester éveillé. Donc aller vers la lumière, c'est plus facile que d'aller vers le noir pour régler ses problèmes. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Comment?
Non, je parle de Depardieu.
Ah ben la Belgique, je crois pas que c'est trop de dé. Ah ben si, alors là c'est vers l'est, hein, pour Moscou. Mais... désynchronisation de l'ensemble des rythmes biologiques par rapport à l'environnement. Donc, il est clair que quand vous allez à l'étranger, il n'y a pas que le rythme veille-sommeil qui est décalé. Il y a le cortisol, il y a la température, et tout ça, ça va s'adapter avec des temps différents. Le cortisol, c'est 3 semaines. Le cortisol, c'est l'hormone qui vous stimule pour travailler le matin. Hein? Donc ça, c'est important. Donc le sommeil se synchronise plus vite. Et vous voyez, souvent, on voit ça au niveau des aéroports, des gens qui dorment à n'importe quelle heure. Vous voyez, ça c'est le rythme. Vous voyez, quand vous allez, alors ça c'est le rythme de 24 heures. Quand vous allez vers l'ouest, eh bien vous êtes plus exposé à la lumière et donc ça vous maintient éveillé. Si vous allez vers l'est, là je l'ai pas dessiné, mais vous serez au noir et donc vous aurez le mieux c'est de vivre avec l'heure de la société. Donc s'il fait noir, vous allez vous coucher, mais vous n'aurez pas envie de dormir. Donc vous serez en avance de phase artificielle ou en retard de phase artificielle. Et ça, vous allez vous adapter progressivement. Donc, voilà un exemple de sécrétion de mélatonine. Hein, voilà, un voyage vers l'est. Et bien, vous êtes en retard des phases et progressivement, la mélatonine s'adapte. Il vous faut quelques jours dans un sens. Et là, la mélatonine va se décaler dans l'autre sens. Et au bout de quelques jours, vous êtes adapté. Si vous voulez vous adapter plus vite, il y a 2 solutions. Un, prendre de la mélatonine. Ça marche bien chez le cobaye et chez le rat. Chez l'homme, ça dépend des personnes. Certaines, ça sera efficace. Et vous pouvez, la lumière a exactement la même action, vous exposer à la lumière au bon moment, soit le matin, soit le soir, suivant le sens des décalages. Alors, si c'est l'été, eh bien, vous sortez à la lumière, si le matin, s'il y a de la lumière de soleil. Si c'est l'hiver, vous pourrez vous exposer à une lumière artificielle, si nécessaire. Alors, vous voyez, l'avance de phase, c'est les gens qui se couchent trop tôt. C'est le sommeil qui survient de manière trop précoce. Eh bien, vous voyez, le sommeil va arriver ici à 17-18 heures. Même si les gens ne vont pas se coucher, ils ont fortement envie de dormir. Ils ne peuvent pas résister, en fait. Hein. Donc, ils vont se coucher. Et en revanche, ils se lèvent trop tôt. Et là, ils vont être au lit sans dormir. Ça se traduit par une insomnie avec un réveil trop précoce. Alors, souvent, on évoque la dépression dans ces cas-là. Mais ça peut être une avance de phase. À l'inverse, le sommeil trop tardif, donc les gens peuvent se coucher, mettons, à 22 heures, normalement, et ils n'ont pas envie de dormir. Donc, ils restent de 22 heures à 1 heure du matin sans dormir. Et là, c'est une insomnie d'endormissement. Souvent, c'est des gens anxieux, ça, l'insomnie d'endormissement. Mais ça peut être un retard de phase. Et les gens, ici, vont se réveiller ensuite, vont devoir se lever à 8 heures du matin, mais eux, ils ont envie de dormir. Ils sont en difficulté. Donc, ces gens-là, il faudra les exposer à la lumière le matin, et ceux-là, les exposer à la lumière le soir. Le travail posté, je vais aller assez vite. Donc, c'est évidemment, vous comprenez les difficultés du travail posté. Et donc, travail posté, c'est avec des horaires très irréguliers ou pas. Donc, il y a une forte difficulté d'adaptation à ce type de travail. Mais on s'adapte d'autant plus facilement si on est célibataire, si on est jeune. Les jeunes qui font des travails en 3-8 ou à travail posté ou de travail de nuit, souvent sont très bien pendant une 20aine d'années et après ne supportent plus. L'organisme, en vieillissant, ne supporte plus. Et si on change de poste dans le sens des aiguilles d'une montre, la rotation se fait dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire matin, après-midi, soir, nuit. Ça, c'est plus facilement supporté que nuit, soir, après-midi, matin, parce qu'on raccourcit le jour. Il vaut mieux allonger le jour. Donc souvent, c'est des conseils à donner. Et les gens qui prennent les postes à 5 heures du matin ou à 4 heures du matin, c'est très mauvais. Tout simplement parce que le minimum de la température n'est pas passé. Donc, si vous avez des entreprises ou des gens que vous connaissez qui commencent à travailler à 5 heures du matin, il faut leur dire de commencer à 7 heures. Alors, ça dépend de l'entreprise. Hein. Voilà. Voilà. Donc là, c'est la société qui nous impose nos horaires, c'est le rythme social. Il est clair que si la personne arrive à 8 heures du matin alors qu'elle devait embaucher à 5 heures, 2 jours après, elle est à la porte. Hein. Donc, il faut expliquer que c'est un vrai problème et qu'il n'y a aucune raison de travailler à 5 heures du matin. Il faut organiser les rythmes différemment. Et ça peut se faire. Nous, on le fait. Hein. On explique. Il y a des sociétés maintenant qui prennent conscience de ce phénomène, d'autant plus qu'on sait qu'en travail posté, ou travail de nuit en particulier, il y a des risques de cancer augmentés. Cancer du sein chez la femme, cancer du côlon et du rectum chez l'homme. Donc, ce n'est pas rien et ça s'est démontré. Donc, maintenant, les entreprises qui doivent faire attention à la santé de leurs employés commencent à faire attention aussi aux horaires. Mais avant que tout soit changé, alors l'insomnie par excès de lumière la nuit, on en a parlé. Hein, si vous avez une chambre inadaptée avec trop de lumière, ben, ça va être source d'un mauvais sommeil, essentiellement par un éveil trop facile. vous êtes éclairé, eh bien, vous allégez votre sommeil et le moindre bruit, le moindre mouvement du partenaire à côté, ou s'il y a un animal dans la chambre, c'est encore pire, ça c'est pas recommandé, eh bien ça va vous réveiller, évidemment. Si vous avez la sensibilité à l'insomnie, vous serez insomniaque. La dépression saisonnière, alors ça c'est très particulier. Alors le terme dépression est excessif. Hein. C'est le sentiment de ne pas être bien, une petite déprime, mais ce n'est pas une véritable dépression au sens psychiatrique du terme. Donc ça survient en général l'hiver et disons les périodes de novembre à mars. Il y a des gens qui vont les déclarer plutôt à l'automne et d'autres plutôt en janvier, février. Donc c'est plutôt en fin d'année ou en début d'année. Et ça c'est lié strictement à la quantité de lumière qui est diminuée. Les jours sont réduits, donc les nuits sont plus longues. Quand les nuits s'allongent, la mélatonine est sécrétée plus longtemps. Mais la mélatonine agit sur l'horloge biologique, mais aussi agit sur l'humeur. Et donc, on se sent mieux à la lumière, tout simplement parce qu'on a une autre molécule qui s'appelle la sérotonine, qui va être un facteur d'humeur un peu plus euphorique, plus favorable, plus joyeuse. Hein. Et si on est en manque de lumière, bien cette sérotonine est moins sécrétée et on a, pour certaines personnes, ce petit sentiment de ne pas être très bien. Donc, c'est les jours qui raccourcissent, la clarté qui diminue, mais aussi, pendant que la lumière est là, dans la journée, la quantité de lumière qu'on reçoit est moins importante par rapport à l'été. Donc, même si vous êtes éclairé de 9h du matin à 17h le soir, la quantité de lumière que vous recevez est moins importante. Et pour certaines personnes, c'est très sensible. Et ça s'appelle la dépression saisonnière. Et on va devoir s'exposer à la lumière. Et la lumière constitue un véritable traitement. Et on l'utilise, évidemment, en médecine du sommeil. Mais au-delà de la médecine du sommeil, on va l'utiliser, par exemple, dans les postes de nuit. On recommande très nettement d'éclairer les gens qui travaillent la nuit à certains moments du poste. Hein. Certainement pas juste avant d'aller se coucher. Il faudra, là, au contraire, être moins éclairé. Donc, la lumière, c'est un traitement pour caler son horloge. Et vous avez bien compris que si vous gardez votre horloge calée, au mieux, eh bien, vous aurez un meilleur sommeil. C'est l'horloge biologique qui va améliorer la qualité de votre sommeil. Alors, cette luminothérapie, en fait, on pourrait croire à une sorte de gag. La lumière, il y en a partout. Comment ça marche ? Et pourquoi ça marche ? Alors ça, on le sait un peu maintenant, mais on ne sait pas trop. Et vous voyez, c'est ce monsieur. Alors, je vous ai mis la référence, si vous voulez écouter cette interview. Ce monsieur, donc le professeur Rosenthal, ici, raconte très bien ce qu'il a vécu lui-même et comment sa réflexion a abouti à ce type de traitement. Lui, il est passé d'Israël à New York. Il y a un taux d'éclairement. Et il a constaté, en fait, que les gens à New York étaient souvent un peu déprimés. Il ne savait pas trop. Lui-même a ressenti un peu cette petite déprime de saisonnière. Et il a cherché à comprendre, c'est ce qu'il explique en tout cas, quelle était la différence. Et il a dit, mais il y a une différence, c'est la lumière. Et donc, il a exposé les gens à la lumière. Il a constaté qu'effectivement, ça marchait. Donc, vous pouvez l'écouter. C'est très intéressant. Alors, je me souviens plus, ça doit être en anglais. Et donc, il a découvert la luminothérapie. Hein, on a appelé la photothérapie, luminothérapie, luxthérapie. Tout ça, c'est la même chose. Alors, ça s'utilise très, très bien. Maintenant, il y a des indications. On sait, on étudie très bien. Il y a de nombreuses études. On sait que c'est efficace. Sur la dépression saisonnière en particulier, c'est plus efficace que n'importe quel antidépresseur. Donc, il ne faudra pas hésiter de faire ci. Alors, ça se fait sous forme de cure, c'est-à-dire de période d'exposition à la lumière. Hein, s'expose devant une lampe de luminothérapie pendant une durée limitée d'environ une demi-heure à une heure. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, on fait le plein de lumière. Bon, très bien. Et ça provoque des réactions bénéfiques à l'organisme. Les réactions bénéfiques, c'est ce que je vous ai expliqué, en fait. Hein, c'est le réglage de l'horloge et l'amélioration, en particulier pour les déprimés, du taux de sérotonine. Quand on donne un antidépresseur, la plupart des antidépresseurs sont basés sur le fait qu'on va augmenter le taux de sérotonine au niveau des synapses, de certaines synapses du système nerveux, et ça va améliorer la dépression. Eh bien, la lumière agit de la même façon. Alors, cette luminothérapie, ça ne se fait pas avec les yeux fixés devant la lumière. C'est simplement une ambiance lumineuse. Je vais vous mettre ça devant, là, si elle est là. Vous allez voir ce que ça donne. Je vais vous exposer à la lumière et je vous dis, comme ça, vous ne dormirez pas cette nuit. Donc, vous regarderez le film. Si vous ne voulez pas dormir, vous regardez la télé. Hein, c'est pareil. Et même si vous dormez devant, vous voyez, voilà. Alors, ça envoie 10 000 lux. C'est exprimé en lux. Hein. Au minimum, il vous faut 2500 lux d'intensité et ces lumières sont spécifiques. Elles ne contiennent pas d'ultraviolet ni d'infrarouge. Donc, il faut vraiment acheter des lumières dédiées parce qu'autrement, vous allez abîmer votre rétine. La lumière, si vous la regardez, une lumière aussi intense que ça, si vous la regardez, eh bien, si elle est toxique pour la rétine, au bout de quelques séances, vous allez abîmer les photorécepteurs. Donc, vous allez vous l'exposer. Il y a différentes variétés de luminothérapie. Donc, vous avez vu ce que ça donnait. Hein, vous pouvez exposer moins. Donc, vous allez faire. vous pouvez l'utiliser comme une lampe de bureau. Donc, vous êtes à votre travail. Alors, attention, vous n'allez pas la mettre n'importe quand, ou le soir ou le matin. Alors, pour les déprimés, c'est plutôt le matin. Mais pour les retards de phase, l'avance de phase, il faut bien calculer. Pour un sujet qui a une tendance à la déprime, nous, dans le service, les techniciens, ils mettent ça toute la journée. Hein. Alors, il y en a certains qui disent que là, ça leur fait du bien, mais c'est la réalité, en fait. Mais il ne faut pas l'avoir toute la journée, c'est inutile. On peut la mettre au plafond. Hein, vous avez une pièce dans votre bureau et hop, vous mettez ça comme écran lumineux, comme des casques à visière. Il y a tout un tas de variétés de lumière. Vous les voyez ici. Donc je vais éteindre. Vous avez vu? Ok. Donc on va là. Alors il faut une lumière intense et moi je recommande des lumières à grande surface comme celle-ci, de manière à ce qu'il y ait une ambiance lumineuse et que vous puissiez faire autre chose et ne pas rester à côté de la lumière. Vous pouvez lire, vous pouvez prendre le petit déjeuner, vous pouvez manger le soir, si c'est le soir dont vous avez besoin de la lumière. D'accord ? Mais il ne s'agit pas de rester à côté, surtout pas regarder la lumière de face. Alors, il n'y a pas grand danger non plus. Alors, vous voyez, cette personne est exposée, ben, elle fait ce qu'il ne faut pas faire. Et pourtant, c'est une publicité. Et c'est bizarre, mais c'est comme ça. Vous voyez, celui-ci est plus le lit, voilà. Il y a des lunettes, il y a des visières. Alors ça se vend à... Alors je n'ai rien à voir avec les commerces, mais si vous voulez en acheter, ça se vend dans les grands magasins sur Poitiers. Vous pouvez en trouver dans différents grands magasins. Et ça coûte... Ça, c'est une Philips, mais je n'ai pas d'intérêt chez Philips. C'est celle qu'on utilise, nous, au CHU. En fait, on donne quand les patients ont besoin de lumière. On a un petit lot de 4 à 5 lumières. On a essayé d'en avoir d'autres. Ça coûte entre 100 et 200 euros. Hein. Donc, c'est trop cher pour le CHU. Donc, on en a acheté 5 avec notre réseau Veille-Sommeil. Et on les donne aux patients. Et si ça fait du bien à la personne, car ce n'est pas toujours efficace non plus, ce n'est pas 100%, eh bien, après, la personne peut acheter cette lumière. Il y a un investissement qui est autour de 100 euros. Hein, ça dépend des lumières. Donc, il faudra vous exposer environ une heure. Ça peut être un peu moins, une demi-heure, 45 minutes par jour en une séance. Ce n'est pas, trois fois 15 minutes. C'est vraiment une demi-heure ou 45 minutes, une heure devant la lumière. Donc, on fait autre chose. On lit, on fait la vaisselle, on fait ce qu'on veut. Hein. Alors, non, ça marche. Ben, l'objectif n'est pas tellement de dormir devant la lumière. Écoutez, j'ai fait une formation pour des infirmières, des infirmières qui travaillent en médecine du travail et des médecins dans une centrale nucléaire il y a 15 jours à peu près. Donc je leur exposais, parce que ça faisait partie de la formation, le rôle de la lumière sur le sommeil. Mais c'était exactement très intéressant parce qu'il y a une des infirmières qui était là qui faisait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, elle s'exposait à la lumière le soir. Elle regardait la télé. Elle avait chez elle, dans sa chambre, un Velux qui l'éclairait. Donc, la nuit, hein, il n'y avait pas de rideau occultant. Et donc, évidemment, quand on expose à une personne qu'il faut dormir à l'obscurité, puisque vous avez bien compris que le mieux, c'est de dormir à l'obscurité, le soir, elle a appliqué directement tous les conseils qui lui ont été donnés. Elle n'avait jamais aussi bien dormi. Le lendemain, elle nous dit, mais j'ai jamais aussi bien dormi que cette nuit. Elle avait supprimé toutes les lumières. Et je vous le conseille. Si vous avez la moindre lumière qui passe dans votre chambre, faites l'obscurité complète, totale. Un week-end, par exemple. Enlevez le réveil. Enlevez le réveil. Vous allez allonger votre temps de sommeil d'une à deux heures. Spontanément. Si vous ne manquez pas de sommeil, hein, ce qui ira. Donc, vous allez faire des cures sur une période de 3 semaines à peu près. Et au besoin, vous recommencerez. C'est pas la peine. Alors, pour les problèmes, on ne prend pas de la lumière comme ça. Hein, c'est bon, tiens, je prends de la lumière. Il y a des raisons. Pour les retards de phase, Donc ça, il faudra prendre la lumière le matin. Retard de phase, la lumière, c'est le matin. On pourrait prendre de la mélatonine, hein, on peut donner aussi de la mélatonine. Dans un retard de phase, la mélatonine, il faut la prendre le soir. Il faut compenser le manque de mélatonine le soir. La lumière agit le matin. Elle empêche la mélatonine de persister le matin. Les avances de phase, là, pour les avances de phase, on va prendre la lumière le soir. Attention, là, ça va réveiller. Hein, c'est pour décaler les personnes le soir, donc chez les sujets plus âgés souvent. Quand on a une dépression saisonnière ou hivernale, hein, le trouble affectif saisonnier, ça c'est le nom qu'avait donné Rosenthal, ça représente un quart de la population, ça me paraît un peu fort, mais c'est ce qui est donné. Donc vous savez tous que quand l'été arrive, on est tous contents. Il y a de la lumière, le soleil, ça y est, on a tous la pêche. Donc en fait, je dirais que c'est presque 100% de la population qui a besoin de ce soleil d'été. Et l'été, la lumière artificielle n'a aucun intérêt. Vous avez la lumière, vous prenez le petit déjeuner à l'extérieur. Hein, si vous avez un jardin, une table ou un balcon, allez à l'extérieur. Si vous êtes en appartement, c'est plus difficile s'il n'y a pas de balcon. Donc là, ça peut être utile. Donc regardez bien l'éclairage que vous avez dans vos chambres. Alors pour le travail posté, eh bien ça c'est plus difficile. Donc c'est presque au cas par cas parce que ça dépend des gens. S'ils sont du soir, du matin, quel type de travail, hein. Bon, pour les postes de nuit, il est clair que la personne doit être efficace la nuit. Donc on va plutôt lui donner de la lumière le soir. Et quand elle est au travail, il faudra qu'elle soit éclairée au travail le soir. Pendant la moitié du travail, voire les 3/5, elle va être éclairée. Et les 2/5, eh bien, on va commencer à baisser la lumière pour qu'elle puisse rentrer chez elle et dormir à l'arrivée. Il y a très très peu d'entreprises qui font ça, bien sûr. Et à Civaux, ici, à la centrale nucléaire de Civaux, les gens qui surveillent les lumières, il y a quand même des postes de surveillance, moi j'ai visité ça, sont à l'obscurité en permanence, y compris la nuit, tout simplement parce qu'eux estiment mieux voir les écrans, et donc ils ont les écrans qui les éclairent, bien sûr, mais on est dans une situation de pénombre permanente. Et eux ont besoin d'être réveillés la nuit, puisqu'ils sont là pour surveiller quelque chose de dangereux, en fait. S'il y a une lumière qui s'allume, il vaut mieux réagir au bon moment. C'est ce qui ne s'est pas passé à Tchernobyl. C'est une personne qui n'a pas répondu à un signal à 3h du matin. Et ça a abouti à Tchernobyl. Parce que ces gens-là, en fait, n'ont pas la conscience que cette lumière va les éveiller. Donc ils voient mieux les écrans, ça stimule un peu, mais pas suffisamment. Pour les postes du matin, au contraire, c'est en début de poste, puisque là, le matin, en fait, vous vous réveillez à 4h du matin ou 5h du matin, et il vous manque un peu de sommeil. Et si vous vous restez éveillé, eh bien, il faut vous éclairer le matin. Donc la lumière, vous voyez, si on la prend, ce n'est pas n'importe quand. C'est un traitement. Pour le jet lag, ben, ça, je vous l'ai déjà dit, hein, décalage horaire vers l'ouest, c'est le soir. Pour les décalages vers l'est, ce sera le matin. Ça dépend à quel moment vient l'obscurité. C'est pour décaler votre mélatonine. Alors la luminothérapie, bon, c'est une réalité, hein, c'est un traitement, c'est un véritable traitement, c'est pas anecdotique, mais c'est un traitement sérieux. C'est vendu dans les commerces, donc les gens achètent de la luminothérapie parce que c'est à la mode, c'est dans les magazines, mais il faut savoir l'utiliser. Il ne faut pas l'utiliser de manière inadaptée. Une personne qui s'endormirait un peu tôt le soir et qui prendrait sa lumière le matin, eh bien, c'est tout à fait inadapté. Donc il faut vraiment avoir ces notions-là. Donc on peut dire que c'est un somnicament. Ça, c'est un nom qui a été créé par un ami qui s'appelle Eric Mullins à Albi, qui est un médecin du sommeil. Alors il y a des somnicaments comme ça, la luminothérapie. Il y en a un autre, peut-être je ferai un jour un topo, c'est la sieste. Ça vous intéresserait d'avoir un topo sur la sieste? Bon, ben ça c'est faisable. Dans les dépressions saisonnières, si on est fatigué, alors la notion de fatigue, ça c'est très, très difficile à apprécier. Les gens souvent se plaignent de fatigue alors qu'ils sont somnolents. Et ils ont envie de dormir, je suis fatigué. La fatigue, c'est une fatigue physique. Vous n'avez pas besoin de dormir pour récupérer d'une fatigue. Il suffit de s'asseoir sur un fauteuil, c'est les muscles qui sont fatigués. Lorsqu'on est somnolent, c'est le manque de sommeil ou une pathologie du sommeil si on est trop somnolent. Et on doit toujours résister au sommeil, sauf en tout début d'après-midi, parfois 5, 10, 15 minutes de sieste, ça fait énormément de bien pour certaines personnes. Mais ce n'est pas obligatoire. Et si donc on a des difficultés, eh bien, faut savoir que dans un premier temps, il faudra toujours aller voir votre médecin pour expliquer vos difficultés et faire une consultation dédiée à vos problèmes de sommeil. Je m'endors trop tôt. J'arrive pas à résister au sommeil. Je m'endors tout le temps. Je me suis endormi au volant. C'est le bas-côté qui m'a réveillé. Ça veut dire que vous êtes endormi au volant, vous êtes en danger, vous avez mis en danger la vie des autres. Et il y a énormément de gens qui vous disent « Non, j'ai jamais eu d'accident en m'endormant. » Mais si vous leur posez la question, le bas-côté vous a jamais réveillé ? Ah si. Et les bandes sonores sur la route ? Ah oui. Hein, ça ramène le volant. Ça veut dire que vous avez eu un presque accident et on commence à les compter et on est en danger à ce moment-là. Donc le médecin recherchera les causes, car énormément de causes en dehors de simples dysfonctionnements liés à la lumière qui vont induire des troubles. Il faudra savoir bien positionner l'exposition à la lumière, c'est-à-dire le matin ou le soir, quelle quantité, prendre la lumière qui est adaptée, c'est-à-dire au moins 2500 à 5000 lux, si possible 10 000 lux. Et il y a une contre-indication majeure qui est toute rétinopathie. Si vous avez des problèmes rétiniens, et bien sûr, là, il ne faudra pas vous exposer à la lumière. Alors, il faudra savoir garder une horloge bien calée pour pouvoir bien dormir. Hein ? On parle de rythme veille-sommeil. Alors, ces synchroniseurs externes, eh bien, il y en a de très nombreux. La lumière est majeure, vous avez compris. Mais il y a les rythmes sociaux, l'alimentation. Il faut savoir prendre des repas à heure régulière. C'est pour 10 à 15% du réglage de votre horloge biologique. Et maintenant, on a identifié qu'il y avait une autre horloge biologique qui réglait lors des repas. Et ça marche ensemble. Donc, si vous mangez à 8h du matin, à 9h, à 11h, à 13h, à 17h, à 19h, à 21h et à 23h, là, l'organisme ne sait pas à quel moment il doit vous donner la faim. À quel moment il a faim, celui-là, il mange tout le temps. Je ne sais pas. À quel moment il n'a pas faim, il mange tout le temps. Donc on ne sait pas. Donc on grignote. Et si vous ne dormez pas bien, si vous ne dormez pas assez, eh bien votre comportement va vers le grignotage et vers la prise d'aliments sucrés. Et donc vous avez du surpoids. Pas immédiatement, mais quelques années plus tard. Donc la prise de poids est en partie liée au manque de sommeil ou à un mauvais sommeil. Ça, on le sait maintenant. Il y a des complications autres comme cardiovasculaires. L'alimentation, c'est très important. Donc, il ne faut pas aller avec la mode de ce grignotage et cette alimentation, en particulier chez les ados et les jeunes. Bon, les anciens, hein, c'est fait, terminé. On est gros, on n'est pas gros, mais il vaut mieux faire attention. Mais les jeunes, il faut les éduquer. L'exercice physique, ça va améliorer la qualité du sommeil si on le fait dans la journée. Lorsqu'on fait au moins une demi-heure de marche dans la journée, eh bien, on améliore la quantité de sommeil profond et surtout sa qualité. C'est un sommeil de meilleure qualité. On a des indices de profondeur du sommeil, même si c'est donc l'exercice physique, mais pas le soir, pas après dîner, parce qu'après dîner, ça vous augmente la température corporelle et ça vous maintient éveillé. Donc avant que la température redescende, ça va prendre une heure et demie à peu près, si vous faites un exercice intense. Et même pas intense, hein, la marche peut suffire. Si vous marchez une demi-heure après dîner, ça va vous décaler votre heure d'endormissement. Et si vous n'avez pas tous ces synchroniseurs, vous risquez d'être en libre cours, c'est-à-dire d'avoir ce rythme un peu de décalage progressif dans la journée, et les gens vont être bien, puis pas bien, puis bien, puis pas bien. Donc les règles pour un meilleur sommeil, c'est 1. De diminuer le temps passé au lit si on ne dort pas, c'est pas la peine de rester au lit. Donc je vais au lit pour dormir, mais je ne dors pas, ça ne sert à rien. Donc on fait, alors vous verrez sur les sites internet, agenda du sommeil, notez bien ce... Je ne sais pas si on en a mis ici, mais l'agenda du sommeil, regardez ça. Vous faites un agenda du sommeil et vous regardez combien de temps vous dormez, selon vous, au bout de 15 jours. Si vous dormez 6 heures alors que vous êtes 9 heures au lit, ça veut dire que vous avez passé 3 heures de temps inutile au lit. Faites autre chose et restez 6 heures au lit. Vous serez probablement en dette de sommeil et vous aurez envie de dormir. Et après, au bout de 8-10 jours, eh bien vous dormirez mieux et vous augmenterez 6 heures, 6 heures et demie, 7 heures. Hein ? Ça, c'est les techniques qu'on utilise pour recaler les gens. Quand on dort, quand on est trop longtemps au lit, eh bien, c'est pas bon pour le sommeil. Il faut être le temps de la durée de son sommeil et surtout ne pas dormir dans la journée. Quelqu'un d'insomniaque qui va prendre du sommeil dans la journée, en particulier vers 17h en arrivant du travail, il s'endormira pas le soir. C'est sûr. Alors, évitez d'essayer de dormir à tout prix. Faire de l'exercice 6 heures avant le coucher. Là, on est très, très sévère, hein, mais pas après le dîner. Et 2 heures au moins entre le dîner et le coucher, pour que la digestion soit déjà bien avancée. Avoir des horaires réguliers de sommeil. Pourquoi avoir ces horaires réguliers ? C'est pour caler l'horloge biologique. Si vous levez une fois à 10 heures, une fois à 8 heures, une fois à 6 heures, ben la mélatonine ne sait pas ce qu'elle doit faire. Donc elle va faire n'importe quoi et vous ne serez pas réglé, vous aurez des difficultés de sommeil. Évitez le café, Les excitants en général, l'alcool. Alors l'alcool, ça va vous endormir, mais ça va alléger votre sommeil, ça va vous réveiller dans la nuit. Vous dormirez, c'est un sommeil de mauvaise qualité. Le café, c'est une substance qui effectivement éveille. Ça a une vraie action sur à peu près 70 à 80 des gens. C'est une substance qui empêche une autre molécule d'agir qui s'appelle l'adénosine. Et c'est cette adénosine qui s'accumule dans la journée qui vous donne envie de dormir le soir. Le besoin de sommeil, c'est l'adénosine. Et donc ça, le café, c'est un anti-adénosine en quelque sorte. Et ça vous maintient éveillé. Alors on le conseille quand on a envie de dormir sur la route. Si vous avez envie de dormir sur la route et que vous êtes sur l'autoroute, vous ne pouvez pas forcément vous arrêter tout de suite, mais vous arrêtez à la prochaine aire d'autoroute. Si c'est sur la nationale, vous arrêtez tout de suite parce que vous êtes en danger. Vous prenez le café avant de faire la sieste. Si vous faites une sieste de 5-10 minutes, c'est bien. En fait, on se détend, on s'arrête, on se détend. On prend un café avant. Pour le café, il a le temps d'agir. Il faut à peu près 20 minutes avant d'agir. Donc si vous prenez le café au moment de partir, vous avez 20 minutes de danger encore. Prendre des repas légers le soir. En termes énergétiques, je vous le rappelle, enfin, je vous l'indique, c'est 30% le matin, 40% le midi, 30% le soir. 30% le matin. Il faut bien manger le matin. Et évidemment, régler tous ces problèmes avant d'aller au lit. Ça, c'est pour les gens qui ruminent le soir. Et donc, il faut aussi savoir aménager sa chambre. Et donc, moi, j'ai appelé ça la chambre idéale. La chambre idéale, c'est quoi ? C'est savoir ajuster l'environnement de la chambre pour faciliter son sommeil. Alors, température, 18 degrés. 19, 17, c'est déjà un peu frais. Entre 18 et 20, disons, 18, c'est la bonne température. Pourquoi 18 degrés ? Car votre corps, on est des animaux à 100, à température constante. Donc, quand il fait trop chaud, il y a la thermorégulation pour nous refroidir. Et quand il fait trop froid, il y a la thermorégulation pour nous réchauffer. Et le moment où la thermorégulation est la moins active, qu'on dépense le moins d'énergie pour réguler notre température centrale, c'est lorsqu'on est à l'extérieur à 18 degrés. On dépense le moins d'énergie, donc on ne réchauffe pas. Donc ça, c'est pour ça qu'on dit 18 à 19 degrés. Le calme, alors le calme, c'est les bruits. Donc l'isolation phonique, si c'est possible. Évidemment, il y a le voisin du dessous, il y a le voisin du dessus, il y a les enfants, il y a les chiens. Et si vous dormez dans la journée, prévenez que vous allez dormir. Parce que les gens ne le disent pas. Hein? Donc, il y a du bruit autour, etc. Si vraiment on a besoin de dormir. Et l'obscurité, ça c'est très très important. Enfin, tout est important. Hein. Volet étanche à la lumière. Si vous avez de la lumière, la lune, la pleine lune réveille. Vous avez un sommeil plus léger. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la lumière, c'est tout. Hein? C'est pas un rayonnement électromagnétique particulier. Si, c'est de la lumière. Sans matériel éveillant, ça c'est beaucoup pour les enfants et les adolescents. Qu'est-ce que c'est qu'un matériel éveillant ? La télévision. Regardez la télévision et lui, ça éveille. Il y en a qui disent ça endort, mais ça retarde le sommeil. Puis si vous vous réveillez, vous avez peur plus de dormir. Les ordinateurs, Internet, les portables. Les animaux domestiques dans la chambre. Parfois ça rassure, parfois ça gêne, surtout si l'animal se réveille. Le co-sleeping, c'est-à-dire l'enfant qui dort avec les parents, pour jusqu'à 6 mois, on le tolère. Après, il faut savoir faire la séparation entre le coucher de l'enfant dans sa chambre et les parents qui doivent savoir dormir dans leur chambre. Alors, la difficulté entre parents et enfants survient très tôt. L'enfant ne veut pas aller se coucher parce que les parents ne vont pas se coucher. Donc, il faut expliquer à l'enfant tout simplement que lui va se coucher, mais que nous, on reste debout parce qu'on est des grands. Et comme on expliquait qu'on était des grands, quand on vient un petit peu plus grand, ado, on ne va pas se coucher, puisque ça fait 10 ans qu'on nous dit que les grands ne vont pas se coucher. Une literie satisfaisante, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est la literie qui vous va à vous-même. Ni trop dur, le matelas correct, et savoir changer de literie. Et puis pour les enfants surtout, et même pour les grandes personnes, une décoration agréable et non agressive. Il y a des papiers peints ou des décorations, des objets dans une chambre, surtout les enfants, qui vont être agressifs, en particulier lorsqu'il y a une lumière projetée sur les murs. Ça va faire des ombres qui peuvent avoir dans l'imaginaire de l'enfant quelque chose d'horrible ou de difficile à apprécier. L'enfant va en rêver même parfois, voire faire des cauchemars. Voilà. Ça peut être un ronflement positionnel quand il est sur le dos. À ce moment-là, il faut le mettre sur le côté. C'est le coup de coude. Mais le coup de coude, ça ne suffit pas parce que quand vous êtes endormi, vous êtes inconscient de votre... vous n'êtes pas conscience de la situation. Donc, vous ne savez pas si vous passez sur le dos. Donc, il y a des systèmes qui vont régler le problème en empêchant la personne de passer sur le dos. Ou si elle passe sur le dos, ça va le réveiller, va se remettre sur le côté. Ça, ce n'est pas très bon. Il vaut mieux un système qui empêche de passer sur le dos. Donc, ça, en général, c'est des gros volumes qu'on met dans le dos. Autrement, il y a un système très simple à faire que vous pouvez essayer si c'est un ronflement juste positionnel. Mais en fait, si c'est un ronfleur en même temps somnolent, il faut là faire un bilan auprès d'un médecin qui va faire un enregistrement du sommeil à la recherche d'apnée. Mais il y a 60% de gens qui ronflent à 60 ans, donc tous les gens n'ont pas d'apnée du sommeil. À surveiller le ronflement, parce que le ronflement, ça induit un mauvais sommeil. Et le mauvais sommeil, avec le temps, 10-15 ans, ça induit du surpoids, et le surpoids, ça induit des apnées. Donc c'est à surveiller, il ne faut pas laisser... Et les ronflements chez l'enfant, ce n'est pas normal. Un enfant de 4-5 ans ne ronfle pas. Donc on ne peut pas supporter qu'un enfant ronfle, ce n'est pas normal. Donc il a un problème d'amygdale ou de malformation simple que l'ORL pourra régler. Un enfant qui ronfle, ça peut être un enfant qui a des troubles du sommeil. Donc les ronflements, ça se règle. Hein. Il y a différentes techniques en tout cas. Alors, ça dépend des personnes, parce que le week-end, en général, ils ne sont pas de nuit tout le temps. Alors, si la personne dort de nuit tout le temps, y compris les jours de repos, donc elle a inversé son rythme, c'est une inversion de phase, ça se voit dans ce cadre-là, mais c'est extrêmement rare les gens qui dorment tout le temps la nuit, y compris les jours de repos. En général, les jours de repos, ils reprennent le rythme normal, auquel cas la mélatonine va avoir une sorte de décalage. Mais s'il y a une inversion de phase complète, eh bien, ils sont inversés, point terminé. Et donc s'ils dorment le matin de 8h à midi, y compris le week-end, parce que les gens de nuit souvent dorment 5h à peu près, c'est tout. Hein. 8h, 13h, parfois 14h, c'est un maximum. Donc ils sont en manque de sommeil en permanence. Mais ils peuvent être en inversion de phase ou ne pas être inversés du tout et la mélatonine est sécrétée quand même le jour. Ce qui fait que quand ils vont, la nuit, quand ils vont se coucher, eh bien, l'organisme est prêt à se réveiller. Et donc ils n'arrivent pas à dormir facilement. Et c'est d'autant plus vrai qu'ils sont plus âgés. Mais il y a un décalage en fonction des gens. En fait, le travail de nuit est plus souvent supporté par la motivation de la personne à travailler de nuit. Très souvent, il y a une motivation particulière. Ce n'est pas toujours imposé le travail de nuit. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent la nuit par intérêt. Soit l'intérêt pour les enfants, parce que ça facilite l'organisation de la vie. Il y a un intérêt financier, et donc c'est supporté aussi par la motivation de la personne, comme le ferait un navigateur solitaire qui va supporter de ne pas dormir pour gagner une course.
Le manque de sommeil, il s'accumule au fil des années. Oui. Il se comptabilise en fait.
Alors il y a ce qu'on appelle une insuffisance chronique de sommeil. Il y a deux types d'insuffisance de sommeil. L'insuffisance de sommeil aiguë, c'est celle que vous avez quand vous faites une nuit blanche, par exemple. Vous vous couchez tard, vous dormez à 3h du matin. Le week-end, vous faites une soirée le samedi soir. Donc, vous allez récupérer le dimanche et ensuite, c'est réglé. Au bout d'une ou deux nuits, vous avez réglé votre problème. C'est compensé. Ensuite, vous dormez bien. Et la deuxième catégorie, c'est l'insuffisance de sommeil chronique. Et donc là, vous avez une dette cumulative et vous ne pouvez pas récupérer cette dette de sommeil en une ou deux nuits. Donc pour la récupérer, il faudra plusieurs mois parfois pour récupérer cette dette de sommeil. Donc dormir avec un temps de sommeil le même, voire une heure ou deux heures de plus, régulièrement, tout le temps. Malheureusement, quand on a une dette de sommeil chronique, une insuffisance chronique de sommeil, eh bien ça retentit sur le long terme sur l'organisme. Et les risques d'insuffisance chronique de sommeil, les gens... Donc il y a 30% des gens en France qui dorment moins de 6 heures par nuit. Hein, moins 30% des gens, c'est énorme. Alors qu'il y a que moins de 10% des gens qui dorment plus de 9 heures. Vous voyez la disproportion, on a des temps de sommeil trop courts. Donc si on a cette dette de sommeil chronique, ça retentit sur l'organisme. Et les principaux, maintenant c'est bien identifié, il n'y a pas de problème, on le sait, c'est les risques cardiovasculaires, en particulier l'hypertension artérielle, parce qu'on ne dort pas assez, tout simplement. Et si on ne dort pas assez, bien, on a une augmentation de taux d'adrénaline. Et ça provoque de l'hypertension. c'est le diabète, des complications métaboliques, en particulier le diabète. Tout simplement parce que quand on dort pas, on va développer ce qu'on appelle une insulinorésistance, une résistance à l'insuline. Et l'insuline, c'est l'hormone qui fait pénétrer le sucre dans les cellules. Et donc, si on développe une résistance à cette fonction-là, on va avoir trop de sucre dans le sang, on va développer un diabète. Alors, c'est le diabète qui se développe très, très tout doucement avec les années. Et au bout de 10, 15 ans, 20 ans, les gens ont un diabète sans savoir pourquoi. L'hypertension sans savoir pourquoi. Et le troisième point, c'est le surpoids. On prend du poids progressivement, c'est des kilos au fur et à mesure des années. On va prendre 20, 25, 30 kilos. Et on était à 70 kilos, on arrive à 100. Et là, les complications sont bien les mêmes. Et en plus, il y a le surpoids. Hypertension, diabète, cholestérol, donc hyperlipidémie. Et donc tout alors, sans compter après l'apparition éventuellement d'apnée du sommeil parce qu'on a pris du surpoids. On maigrit. Donc il y a des vraies complications qui sont liées à l'insuffisance. Donc même si on règle son problème de manque de sommeil, en particulier à la retraite, les gens qui prennent leur retraite améliorent la qualité de leur sommeil, contrairement à ce qu'on croit, parce qu'ils n'ont plus de contraintes. Donc le matin, ils vont se coucher plus tard en général, mais se lever plus tard. Et donc les gens augmentent d'une heure leur durée de sommeil à la retraite. Donc ils améliorent la qualité de leur sommeil, mais s'ils ont une hypertension, elle est déjà constituée. S'ils ont un diabète, il est déjà là. Donc c'est vraiment de la prévention qu'il faut faire. C'est pour ça que je remercie Mendès France de pouvoir faire ces opérations d'information. Et vous avez maintenant la mission de diffuser le message.
S'il vous plaît, sur le long terme, qu'est-ce qu'impliquent les ruptures de sommeil dans certaines professions qui sont réveillées la nuit? Je parle par exemple pour les pompiers avec des réveils brutaux. Ouais. Des efforts physiques derrière.
Alors, si c'est ponctuel, pour l'instant, d'abord, on n'a pas fait d'études spécifiques dans ce cadre-là. Les seules études qui ont été faites, c'est sur les travailleurs de nuit, et toujours de nuit. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas si les travailleurs à horaires irréguliers, matin, midi, soir, il y a les mêmes conséquences que les travailleurs de nuit. Donc, quand je vous parlais du cancer du sein chez la femme, c'est pour les travailleurs de nuit. Et pour les réveils ponctuels, quand on est d'astreinte ou de garde, alors il y a une conséquence aiguë. Ça, c'est clair, c'est le manque de sommeil. Et l'accident de la route, c'est très fréquent, les accidents de la route, sur des personnes qui ont été d'astreinte ou de garde, quelle que soit leur profession, au retour de l'astreinte, au retour de la garde. Et parce que l'astreinte, c'est à domicile. En général, la garde, c'est sur le lieu de travail. Et donc, il faut être très, très méfiant au retour. Et même si la route est courte, parce que l'accident survient en général dans les quelques kilomètres qui vont soit après le départ, soit juste à l'arrivée. Et donc, il faut savoir dormir. En général, dans ces cas-là, ce qui est recommandé, c'est de prendre du sommeil avant de prendre la route. Alors, les gens disent toujours, non, c'est pas possible, je veux rentrer chez moi le plus vite possible et dormir chez moi. Eh bien, ça, c'est une erreur. Il vaut mieux prendre 5 minutes ou 10 minutes de sommeil, soit dans l'entreprise, soit dans la voiture, si on ne peut pas faire autrement, avant de partir, car ces 5 minutes, 10 minutes de sommeil n'auront aucune conséquence sur l'endormissement une demi-heure plus tard, si on a une demi-heure de trajet, mais vont permettre un retour à une vigilance satisfaisante pour faire la route. Et ça, c'est méconnu. Donc, on peut prendre, quand on a besoin de sommeil, 2-3 minutes de sommeil. Si on a peur de ne pas se réveiller, on met une alarme. On a tous maintenant des alarmes sur soi, soit sur la montre, soit sur des téléphones portables. Et on met l'alarme sur 10 minutes. On peut perdre 10 minutes si on sent qu'on est très fatigué. Et c'est surtout le risque. Après, sur le long terme, on n'a pas de notion particulière parce que les gens dorment finalement bien les autres périodes quand ils ont pas quand ils sont pas d'astreinte ou ils sont pas réveillés. Parfois, ils ont des nuits complètes. On n'a pas d'idée. En fait, s'il y a des conséquences dans ce cadre-là, je pense qu'elles sont minimes. Quand même.
C'est bon ?
Oui, c'est moins bien quand même, c'est mieux d'être à la lumière du soleil. C'est pour ça que moi je vous ai dit, en été, c'est pas la peine de vous exposer à la lumière artificielle, sauf dans des cadres très très particuliers, les avances de phase avec des grands retards, les travailleurs de nuit, des choses comme ça. Mais il suffit d'aller dehors, quoi, voilà, si on peut. Mais oui, la lumière artificielle, c'est un vrai problème. Et c'est pour ça qu'on a effectivement une heure et demie de manque de sommeil. Et ça, c'est montré. Auparavant, les gens dormaient environ 8h30 par 24 heures. Et nous, on en est arrivé à moins de 7 heures, voire pour 30% des gens, moins de 6 heures. C'est énorme. Et les gens vous disent, je dors bien. Non, moi, je n'ai pas besoin de plus. Alors vous regardez ce que vous faites le week-end. Et les gens, alors là, on leur demande, quoi, le week-end, vous dormez combien de temps? Bon, le week-end, je regarde la télé ou je fais autre chose. À quelle heure vous vous levez? Ça va être 10h, 11h, je récupère. C'est ce qu'on nous dit, je récupère. J'ai le droit de récupérer le week-end. Mais vous venez de me dire que vous n'aviez pas besoin de plus de 6 heures de sommeil. Quelle est la nécessité pour vous de récupérer? Un vrai court dormeur ne récupère pas. Hein, il dort 6 heures tout le temps, y compris pendant ses vacances. Donc une personne qui récupère soit le week-end, soit pendant les vacances, c'est une personne qui manque de sommeil. C'est pas dur. Non, on s'en rend pas compte. On s'en rend compte pendant les périodes de vacances où on va voir qu'on dort un peu plus longtemps, ou les week-ends. Mais surtout pendant les périodes de vacances. Donc pour savoir la quantité de sommeil dont vous avez besoin, eh bien vous regardez ce que vous faites pendant les vacances. Après une semaine de récupération, vous dormez le temps que vous voulez pendant la récupération, mais vous verrez qu'au bout de quelques jours, vous êtes au lit sans dormir. Donc vous récupérez votre rythme régulier, jour, le soir et le matin. Et on est en vacances, donc on va être un peu plus libre. Mais même si on se couche plus tard, on se lèvera plus tard. On va adapter notre temps de sommeil. Hein, et les... Ah ben, je dis pas que vous manquez de sommeil. Alors ça, c'est vrai au bout de... Enfin, c'est même la réalité. Après plusieurs années, des décennies, hein, parfois c'est 20, 30 ans de travail de nuit, eh bien les conséquences arrivent parce que c'est chronique. Donc les gens s'habituent en plus à leur état. S'ils deviennent irritables, c'est pas du jour au lendemain, quoi. C'est progressivement. Puis après, on peut plus... Les gens... On renvoie les gens sur les roses en permanence. Oui. Oui, c'est le manque de sommeil. Alors, il y a des gens qui s'adaptent plus ou moins rapidement. Heureusement, la grande partie des gens qui travaillent de nuit, dès qu'ils passent en rythme normal, dans un rythme normal, vont s'adapter très vite. Mais il y a quelques personnes, et c'est le problème, c'est qu'il y a à peu près 10% des gens qui ne vont pas récupérer. Et ne sachant pas les règles simples que je vous ai données, de s'exposer à la lumière ou pas, et de garder des horaires réguliers, parce qu'une journée suffit pour dérégler l'horloge, et vous en avez l'expérience, je vous le dis, avec le changement d'horaire l'été et l'hiver. Vous savez très bien que vous décalez d'une heure et que vous êtes perturbé pour quelques jours. Et ça, c'est très important. C'est bon? Plus de questions? Donc, c'est pas la peine de vous précipiter à acheter des lumières, hein, c'est pas... Voilà, écoutez, merci beaucoup de votre attention et bon sommeil, je dirais.